102.3, Red Radio, c'est la radio.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Atmosphère, atmosphère, l'émission qui vous balade entre ciel et terre. Tous les derniers lundis du mois de 19 à 21h sur Web Radio 102.3.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Yeah. Les bonheurs, c'est la bonne heure et c'est ici et maintenant.
Atmosphère, atmosphère. Et oui, c'est l'émission qui nous approche du printemps. Malgré la météo, on peut fraîche pour la saison, en direct sur les ondes FM et aussi sur Internet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Wave Radio 102.3 pour un nouveau chapitre de notre émission qui se propose de rencontrer les acteurs du monde de demain qui se construit aujourd'hui. Et que nous proposons vous aujourd'hui? Une rencontre autour du thème du droit avec pour question en filigrane, cette problématique, ce qui est légal, est-il légitime? Ou autrement dit, sommes-nous dans un état des droits, plus particulièrement en ce qui concerne la finance ou les droits de l'enfance?
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous avoir parmi nous pour réfléchir et réensemencer nos imaginaires autour d'un thème qui, une fois n'est pas coutume, ne coule pas de source. En effet, dans cette époque de transition, peut-on dire que le droit joue pleinement son rôle? Dans toutes les cultures traditionnelles qui ont précédé notre modernité, eh bien, la justice a été une fonction de la société dont le but était de construire l'individu en fonction à minima de besoins sociaux. Au Moyen-Âge, le droit avait pour but de fabriquer un bon chrétien. Au XIXe, un bon citoyen. Mais que dire de notre époque dite moderne, où le Vatican figure désormais main dans la main avec les plus grands mafieux sur la liste number one des États blanchisseurs d'argent? Donc on a Pierre qui se marre, je vais présenter bientôt, un spécialiste de la finance. Et que dire aussi de l'Église qui bafoue les droits de l'enfant et fait taire un peu plus tous les jours des affaires de pédophilie, pour ne citer qu'elle. Et que dire du bon citoyen qui, excédé par l'inéquité totale de notre société, se retrouve contraint d'aller défiler vêtu d'un gilet jaune, parfois à tire-d'aile d'un flashball dont la justice a autorisé l'existence. Voilà, des sans-culottes aux gilets jaunes, ben 200 ans ont passé, et où en sommes-nous de cette modernité dite libérale qui n'éduque pas nécessairement nos populations à plus de cœur et un peu moins de peur? Atmosphère, atmosphère, ce soir nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau deux penseurs et acteurs du nouveau monde que nous appelons de tous nos voeux. Honneur aux femmes, j'ai en face de moi Anna Hotenhoff, ancienne avocate très au fait du droit de l'enfance et qui est devenue, bon an mal an, médiatrice culturelle. Et puis à ma gauche, Pierre Horry, qui est ancien commandant de la marine marchande et tu as géré un fonds d'investissement à la City, qui est donc le centre londonien de la finance mondiale à hauteur donc, de 200 millions, ce fameux fonds d'investissement. Puis, plus au fait de ce qu'était réellement la finance, tu t'es reconverti à l'éducation des populations sur la création monétaire et la nécessité aussi d'une monnaie locale et pourquoi pas le rêve d'un monde sans argent. Bonsoir donc.
Bonsoir tous les deux.
Bonsoir.
On enchaîne sur un peu de musique.
Ouais, un peu de musique.
Alors, et là, c'est Didier Super. Eh bien, à l'heure du clivage européen qui a vu naître des gens extrêmement investis dans une certaine paranoïa et une thématique de rejet, notamment quand on voit les scores de l'extrême droite. Ben, un petit humage humoristique qui ouvre le cœur. C'est tiré de l'album « Mieux vaut en rire que s'en foutre ». Et elle adore Anna, ouais, elle fait des cœurs. Et ça dit, il y en a des biens. Ça rappelle aussi qu'en fait, derrière les institutions, les programmes, les lois, il y a toujours des gens, quoi. Des êtres humains.
Voilà, Didier Super.
Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués. Les Romanos, comme les artistes et les putes. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les PD et certains jeunes. Y'en a des biens. psychiatres bien dans leur tête. C'est comme le Père Noël, les vieilles catholiques, comme les filles qui avortent, celles qui auraient dû le faire. C'est comme la mère Bush, le pape et ses copains. C'est comme certaines marques de capotes. Il y en a des biens. Allez, il y en a des biens. On chante, il y en a des biens. Il y en a des biens, bien, bien. Les homosexuels refoulés, c'est comme les militaires. Les alcooliques et les dépressifs, comme les policiers. Les gros chefs d'entreprise, c'est comme les mecs qui vont au but. Les curés intégristes, c'est comme les pédophiles. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Allez, il y en a des biens. Il y en a des biens, bien, bien. Mais quand même, des fois, il y en a, ils font chier.
J'en ai assez, tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer d'atmosphère.
Changeons d'atmosphère avec les bonnes nouvelles.
Et oui, vous êtes bien sur Atmosphère, Atmosphère. Et bien, il était déjà l'heure qu'on considère les droits des plantes. La déclaration des droits de l'arbre a été proclamée ce vendredi 5 avril lors d'un colloque de l'association Arbret à l'Assemblée nationale. Alors, leur but, c'est inscrire l'arbre comme être vivant dans les codes civils. L'arbre est un être vivant. C'est comme ça qu'il commence l'article premier de la Déclaration des droits de l'arbre, qui a un total de cinq articles, et qui ont comme objectif préserver ces patrimoines vivants. Mais parallèlement, on vient d'apprendre que les crimes contre l'environnement ne feront pas leur apparition dans les droits français malgré la proposition des sénateurs socialistes introduisant le thème écocide. Leur proposition de loi qui prévoyait une peine de réclusion criminelle de 20 ans et de 7,5 millions d'euros d'amende a été rejetée pendant la nuit, comme d'habitude, voilà, entre le 2 mai et le 3 mai, par les cellules du palais de Luxembourg. Donc la majorité est à droite. Donc, selon les textes retoqués, un écocide correspondait à une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème. En temps de paix comme en temps de guerre. Parce qu'il faut se rappeler que déjà, il a été considéré écocide dans les années 70 après l'utilisation au Vietnam pour l'armée américaine de l'agent Orange qui a détruit les forêts à la zone. Donc ça, c'était en temps de guerre, c'est bien reconnu. Mais quand il s'agit de la destruction des arbres pendant des périodes de paix, il n'y a rien qui s'est profil déterminant en termes de législation. Donc, si les attaques contre l'environnement entraient dans les textes internationaux relatifs au conflit des armes, il n'y a rien pour les périodes de paix. Donc, il faut déjà commencer à considérer, parce qu'on parle de droits, tant qu'on ne reconnaît pas les droits à l'existence des arbres, c'est un peu comme les droits aux enfants, Anne. Et ils ne sont pas leur voix pour se présenter. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi ton avis par rapport à reconnaître les droits des arbres? Approche-toi du micro.
Je crois que c'est d'abord une question très subjective. Pour ma part, moi, je préfère m'occuper des humains. Je suis plus préoccupée par la question des droits de l'enfant et des animaux. Maintenant, les droits de l'arbre, je crois que c'est plus une question qui touche à l'humanité, à la diversité écologique aussi. Et je crois que les résultats des élections hier soir nous prouvent qu'une grande partie de la population est concernée par ces questions et souhaite qu'elles soient inscrites rapidement au sujet des débats, au cœur des débats dans les prochaines sessions parlementaires et européennes.
Mmh. Donc ça bouge, ça bouge. Ok, deuxième bonne nouvelle. Eh bien, sachez qu'un maire de Bretagne vient d'interdire les pesticides, alors que oui, les collectivités peuvent pallier au manquement de l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. On espère que ça va faire jurisprudence, d'ailleurs. Donc, avec sa cantine 100% bio depuis 15 ans, ses éco-hameaux, sa production d'électricité solaire, Langouet, qui est une petite commune d'Ille-et-Vilaine, était déjà considéré comme un laboratoire en matière d'écologie. Mais la petite commune de 600 habitants, donc c'est vraiment très peu, hein, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes, ne compte pas s'endormir sur ses lauriers. Et donc son maire, Daniel Cueff, qui est un écologiste sans étiquette, a ainsi pris samedi dernier un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres de toute habitation sur l'ensemble du territoire communal. Donc, c'est une décision qui est vouée à protéger, bien sûr, la santé des habitants. Comme il le dit lui-même, la loi nous laisse la possibilité d'intervenir pour pallier les carences de l'État. Et donc, face à ces contradicteurs, le maire, il met en avant le principe de précaution. On a des produits avec une tête de mort sur l'étiquette et un mode d'emploi qui demande à l'agriculteur de ne pas retourner dans son champ pendant les 20 minutes suivant l'épandage. Comment et pourquoi utiliser de tels produits? Donc désormais, les habitants pourront porter plainte auprès du procureur de la République contre les personnes ne respectant pas l'arrêté. Bon. On rappelle aussi au passage que notre cher président, qui s'est fait élire notamment sur le thème du no glyphosate, et donc il a repoussé l'autorisation de son utilisation jusqu'en 2022, une fois que la Commission européenne a obtenu en fait fin décembre son autorisation 5 ans de plus. Donc évidemment ça parle finalement du poids des lobbies, puisqu'il est établi depuis mars par la presse que Bayer et Monsanto financent ouvertement le parti d'Emmanuel Macron. Puis ça parle aussi des alliances entre tous les... Comment on peut dire ça quand on parle du lobby? Toutes les boîtes qui vont gérer la planète et qui tiennent la barbichette à nos politiques. Donc ça parle évidemment de les multinationales, de conflits d'intérêts. Donc, comme je le disais, moi, j'espère vraiment que ça va créer une jurisprudence, mais c'est compliqué puisqu'on a entendu parler pendant longtemps des accords du TAFTA. Donc, vous savez, c'est ces accords sur le commerce transatlantique et qui concernent une multitude de domaines, l'accès aux médicaments, la sécurité alimentaire et le règlement aussi entre les différents, entre les privés et les publics. Mais ces fameux accords qui finalement sont passés avec un autre nom, TTIP, ils autorisent notamment... une entreprise à s'attaquer à un État si elle estime que la réglementation est trop stricte. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'un fabricant d'OGM, il pourrait s'attaquer à un des États qui déciderait d'interdire la vente d'OGM sur son territoire.
Ouais, c'est les terrains où tout se mélange, l'écologie, la politique. Mais bon, on va faire quand même un petit flash sur les élections européennes, où il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des positionnements des Verts. Donc, il y a 13,4% de voix en France. C'est la troisième place pour les écologistes. Et bon, même si la grande victoire en France et en Italie, c'est l'extrême droite et ça craint un peu. Mais il faut qu'on se concentre sur les positifs. Donc, l'écologie gagne de voix. Les Verts allemands ont doublé aussi leur score lors des élections du Parlement européen ce dimanche et ils arrivent à la seconde position derrière les conservateurs. Au Royaume-Uni, on continue à montrer l'appui au Brexit et l'image générale de l'Europe se montre assez conservatrice. Sauf en Espagne, où c'est les socialistes qui gagnent leur place. Mais les élections sont en partie un reflet de la pensée populaire. Mais il n'y a pas que ça. Certains citoyens continuent à faire comme ils considèrent correct malgré les dispositions légales et les partis politiques, parce qu'on parle que légal, c'est pas pareil que légitime. Donc, par exemple, Coco Pelli a été accusé, c'est une association qui distribuait des graines des plantes anciennes. Et donc, ils vont continuer à travailler dans l'illégalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'Assemblée nationale légalisé finalement la vente des semences anciennes, mais quelques jours plus tard, encore une fois, les conseils constitutionnels censuraient l'essentiel de cette loi à cause, logiquement, de la pression de ces multinationales qu'on est en train de parler, et lobbies qui font la pression, parce que qu'est-ce qui se passe si on distribue des semences anciennes qui marchent, qui peuvent se reproduire, et les agriculteurs deviennent autonomes et on ne dépend plus des lobbies et de toute cette grande industrie de la chimie au niveau de l'agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Coco Pelli a décidé, de toute façon, on a toujours travaillé dans l'illégalité, mais on va continuer à le faire. La loi, elle dit pas, on ne le trouve pas légitime, donc on continue à faire parce que c'est plutôt la droite.
C'est cette fameuse émission qu'on avait faite sur la désobéissance civile, en sentant venir les gilets jaunes, et puis finalement, tout ça, c'est très légitime finalement de pouvoir s'opposer à ce qui ne nous semble pas légal. Et alors, en parlant de certaines dispositions aussi. J'ai entendu qu'au niveau de ce que j'appelais la communion, la Commission européenne, ils étudiaient l'interdiction de vendre en direct, en fait, tout ce qui est fruits et légumes. Donc, je crois qu'on va tous devoir entrer grandement en résistance et joyeusement ne pas respecter la loi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce dont on parle, là, déjà, chers invités ?
Pierre.
Alors, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur les pesticides, parce que c'est un problème extrêmement local. Moi, je suis élu local à Saint-Jean-de-Marsac. Depuis plusieurs années, je demande à Madame le maire de prendre des arrêtés pour interdire, non pas sur 150 mètres, parce que je sais que c'est très difficile, mais au moins sur 20 mètres l'épandage des pesticides, 20 mètres des grillages des jardins des lotissements. Eh bien, rien n'est fait. Donc, j'ai vu encore, il y a quelques jours, les pulvérisations à toucher les grillages des jardins dans lesquels les petits garçons, les petites filles, les petits animaux de compagnie vont aller jouer, tripoter l'herbe, peut-être une limace ou un insecte qui a été noyé sous des pesticides. C'est quelque chose de très simple. Par exemple, l'usine Seripano qui se trouve à Tyros utilise une chaudière à bois. Ils produisent des cendres. Donc les cendres vont être épandues dans les champs pour fertiliser. Ça, c'est très bien parce que ça évite d'utiliser des engrais à base de pétrole. Eh bien, l'administration a exigé que pour épandre ces cendres, il y ait une bande de 20 mètres qui soit préservée à proximité des limites des résidences. Eh bien, pour ce qui est des pesticides, ce n'est pas le cas. Je voudrais juste finir sur les pesticides, sur quelque chose qui était absolument effrayant. Je voudrais citer le professeur Mohamed Benhamed, qui travaille à l'INSERM à Nice, que j'ai rencontré personnellement plusieurs fois, qui a un mal incroyable à publier une étude qu'il a faite, et donc payée par notre argent, puisque l'INSERM est un organisme public. La conclusion de cette étude est extrêmement simple. Elle dit, en termes de pesticides et de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de petite dose pour la santé humaine. Ce qui va à l'encontre de l'ensemble, et on revient au sujet de la loi, ce qui va à l'encontre de l'ensemble de la loi en France et en Europe et dans le monde, qui dit que jusqu'à une certaine dose maximum, il n'y a pas de problème. Le professeur Mohamed Benhamed de l'INSERM à Nice a conclu que c'était l'inverse. Et il se fait torpiller par le gouvernement et les industriels. Il ne peut pas publier son étude.
Ce dont il faut parler, c'est le... Voilà, ça parle encore du conflit d'intérêts, hein, dont tu parleras aussi avec la finance, hein, puisque finalement, les politiques sont gérées par des lignes de crédit. Et ce qu'ils regardent en premier, c'est le CAC 40, hein, quand ils se lèvent le matin. Mais bon, pour revenir à l'eau et aux pesticides, on a eu ce cas. Hein, pendant 5 ans, de l'eau polluée a été distribuée avec la complicité de la préfecture, en fait, qui donnait des dérogations. Tu peux en parler. Et ce qui est préconisé quand même, c'est une zone de au moins 100 ou de 500 mètres sur les zones de captation d'eau où il n'y aurait pas d'utilisation de pesticides. Et puis, de toute façon, pour l'avenir de l'humanité, quoi de mieux que de passer au bio. Et il y a aussi cette notion, en fait, d'effet cocktail, c'est-à-dire que l'un plus l'autre. Alors là, c'est ce qu'on appelle, les scientifiques.
Ça n'est jamais étudié, l'effet cocktail. Pour revenir sur l'eau très rapidement, parce que je suis au centre de ça, puisque j'ai même eu 2 plaintes contre moi du préfet qui, au lieu de s'occuper de faire nettoyer l'eau, a préféré m'envoyer au pénal parce que j'avais dénoncé donc la distribution d'eau polluée. Il faut savoir que sur 25 communes donc, qui dépendent du syndicat le SIBVA, qui s'appelle maintenant EMMA, ne me demandez pas pourquoi, a pendant 5 ans distribué de l'eau qui était entre 10 fois et 14 fois la limite en ce qui concerne un métabolite de S-métholachlore, le métabolite s'appelant l'ESA-métholachlore. Et que tout le monde le savait, de la préfecture aux députés, à tout le monde le savait, et que donc... Et là, je salue pour une fois un des codes, et on revient au sujet légal, le code de la santé publique qui est écrit en parfait français, qui dit qu'il est interdit, que c'est un délit passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans de prison, de distribuer de l'eau à destination de consommation humaine, EDCH, hors limite. Voilà. La loi dit ensuite une deuxième chose, et c'est très intéressant par rapport au sujet de ce soir. La loi dit ensuite, quand on a cette situation-là, il faut demander une dérogation. Donc ça a été fait 5 ans après, grâce à la pression d'un certain nombre d'élus, dont moi. On doit demander une dérogation. Et dans le cadre de cette dérogation, on doit avoir un plan d'action. Le plan d'action ne peut passer que par du préventif. Et si le préventif n'est pas possible, du curatif. Or là, la dérogation, et d'ailleurs c'est au tribunal, ça va passer bientôt, la dérogation ne prévoit que du curatif. C'est-à-dire que pour que les agriculteurs, il faut savoir que le président du syndicat des eaux est un agriculteur, qui met du S-métholachlore dans la terre, eh bien, au lieu de faire du préventif, c'est-à-dire d'interdire les bandages, sur une toute petite surface, minuscule, on parle d'une 50aine d'hectares, pas plus, eh bien, on préfère dépenser beaucoup d'argent pour faire une usine qui va enlever les pesticides de l'eau, plutôt que de ne pas l'y mettre.
Oui, parce que ça laisse de l'argent à tout le monde, c'est ça.
Enfin, on voilà. va dans le mur. Anna
sur ces réactions.
Approche-toi du micro, Anna, s'il te plaît.
Moi, je suis plutôt sur la question de la désobéissance ouais. civile. Ouais. Je crois qu'on peut dire que tout citoyen a le droit de refuser de se soumettre à une loi qu'il considère comme, comme illégitime. Ouais. C'est aussi le refus du commandement de l'autorité dès lors qu'elle est illégitime. Ouais. Peut-être que c'est mon côté avocat qui réagit ce soir, mais je crois que les mouvements de révolte seront essentiellement citoyens, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de lois sont prises sous la pression des lobbies contre lesquels les avocats essaient parfois de lutter. Mais on a pu voir dans l'actualité encore récemment qu'une avocate a été sortie de l'audience sur les ordres d'un magistrat Manu Militari par des policiers. Aujourd'hui, le barreau de Paris a engagé des discussions avec le syndicat des magistrats. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement dans une salle d'audience.
Mais sur quel sujet elle a été
On ne peut pas à l'antenne discuter de ces questions-là, mais on voit aussi comment les avocats...
À la censure,
on voit aussi comment les avocats ont été réprimés pendant les incidents avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'avocat soit la solution miracle pour lutter ou pour contrer ces lois. On a beaucoup d'autres solutions. Moi, je suis persuadée au plan personnel que ça viendra de la société civile, des associations en particulier, ne citer par exemple qu'Alternatiba dans la région.
Okay. Rendre la société plus juste là où elle ne l'est pas. Ding, ding, ding. Quatrième bonne nouvelle. Des étudiants en droit révisent la Constitution avec les gilets jaunes en toile de fond. Récemment, réunis par leurs professeurs en micro-assemblée constituante, les futurs juristes de la Sorbonne ont notamment proposé des mesures de renfort du rôle des citoyens dans les institutions. Tu es au courant, hein ?
Non. Oui, oui.
Allez. En effet, convaincu que c'est par la pratique que l'on apprend et que c'est par la participation que l'on enseigne, donc Dominique Rousseau, le professeur de droit à l'Université de la Sorbonne, a invité ses étudiants de première année à se mettre en situation d'avoir à utiliser le droit. Donc les 21 travaux dirigés de TD se sont transformés en micro-assemblées constituantes par petits groupes de 4 ou 5 et ils se sont mis à réécrire de façon partielle la Constitution. Donc ben, c'est un pari réussi. Et cet ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, donc ce professeur Dominique Rousseau, est apparemment très fier et il a permis donc par la suite aux 21 porte-parole que sont ses élèves d'exposer sur l'estrade les principales mesures de leur groupe. Et les travaux apparemment étaient naturellement imprégnés de la situation de soulèvement citoyen à laquelle on fait face actuellement. Et puis les étudiants s'étaient même mis à consulter des cahiers de doléances et ont eux-mêmes testé des propositions auprès des manifestants, donc, ce qu'on appelle les gilets jaunes, afin d'affermir la légitimité de ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Et puis aussi certains des jeunes... Et forcément, on prend en compte l'urgence climatique, ce qui évidemment, ça dépasse largement l'actualité. Et puis, ça parle vraiment de cette période où l'humanité a rendez-vous avec elle-même. Et donc, ils ont proposé de remplacer le Conseil économique, social et environnemental par un Conseil environnemental afin de le consacrer aux droits de la nature. Donc, on y revient, voilà. Et le nouvel article 71 de la Constitution préciserait que les fleuves, les glaciers, la mer, les forêts, etc., la biodiversité, les montagnes, la qualité de l'air, de l'eau, voilà, auront chacun un représentant qui aura pour mandat de veiller à la préservation de leurs intérêts. Donc c'est intéressant.
C'est très intéressant, les pouvoirs aussi de la vie universitaire. Moi, ça me rappelle ça que tu es en train de parler au film de Denis Gansel. Je ne sais pas si vous les connaissez, La Vague. C'est une expérience d'un professeur d'un lycée qui met en place pour que les étudiants différencient la démocratie du système totalitariste. Donc, il les fait en proposition pour qu'ils représentent un peu comment fonctionnerait un système démocratique ou un système totalitaire. Donc, du coup, dans les cadres de l'Allemagne, avec les passés qu'elle a vécu, etc. Et c'est très intéressant parce que cet expériment, pour joindre un peu à la conversation d'Anne, vers que ça peut venir que de la citoyenneté, parce que des fois, les citoyens, quand on a parlé dans nos émissions de la prise de pouvoir, etc., il faut qu'on commence à utiliser cette responsabilité et pas faire la déléguer toujours. Donc, c'est très intéressant de mettre ça au niveau de l'universitaire. Qu'est-ce que vous pensez? Tu as passé à la formation, tu as dit, j'ai lissé un peu ta bio là, à un moment donné. Et j'ai dit, c'est toi laisser ton activité marchande pour la formation. Est-ce que... Dis-moi, Pierre.
Alors, je voulais juste revenir sur une petite chose qui me paraît très intéressante pour éviter d'opposer l'animal et le végétal. Mm-hmm. Les dernières recherches ont prouvé, ou sont en train de prouver, que en fait, l'ADN des végétaux et l'ADN des animaux est extrêmement proche. Mm-hmm. Et que l'ADN des végétaux est beaucoup plus sophistiqué que le nôtre, parce qu'un végétal, contrairement à un animal, lorsqu'il y a une menace, ne peut pas bouger. Donc, il est obligé de s'adapter à la menace sans bouger. Donc, l'ADN des végétaux est beaucoup plus sophistiqué que le nôtre. Et il est donc quasiment certain que tous les produits qu'on déverse, qui tuent l'ADN des végétaux, ont, si on fait preuve d'un petit peu de bon sens, forcément un impact sur le nôtre, qui est moins sophistiqué. Donc, voilà, je voulais juste un petit peu clarifier cette chose-là. La deuxième chose, c'était un petit peu sur la désobéissance civile. Alors, je voulais remonter un tout petit peu plus haut. La première des choses, c'est une question que je me suis posée il y a très peu de temps et qui me perturbe beaucoup. J'ai lu un livre d'un philosophe français dont j'ai oublié le nom, c'est un jeune philosophe. De quel droit ce droit-ci s'applique à moi? Le simple fait que je sois né, le droit français s'applique à moi. Alors ça, c'est le combat de Assange, Manning et Snowden. Et c'est pour ça que les États-Unis vont très fort après eux. C'est parce qu'ils osent, dire, non, moi je veux choisir le droit qui s'applique à moi.
Vous vous rappelez, Julien Assange, c'est ce journaliste
qui risque la peine de mort probablement depuis qu'il est accusé d'espionnage. La deuxième chose, pour rester très haut et pour revenir un peu aux histoires de légalité et de légitimité, c'est que donc, on a toujours dit que nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi pas? Aujourd'hui, la loi française, c'est 74 codes qui font en moyenne entre 2500 et 3500 pages. Donc en gros, on a plus de 210 000 pages de codes diverses et variés. Alors, ce n'est plus une question de nul n'est censé ignorer la loi, c'est une question de personne ne peut comprendre la loi. Donc, comment peut-on demander à des gens de l'appliquer? Comment peut-elle être légitime si on ne peut plus la lire, plus la comprendre? En plus, et je vais utiliser l'expression un petit peu grossière, mais notre Assemblée est affligée d'une diarrhée législative qui fait que ces lois, en plus, changent en permanence. C'est-à-dire qu'une loi n'est pas encore en application, c'est-à-dire que les derniers décrets ne sont pas signés, que la nouvelle loi arrive et la remplace. Et juste pour finir là-dessus, la dernière des choses pratiques, et là je parle sous le contrôle de notre amie avocate ici, Anna, la plupart du temps, les nouveaux textes ne sont pas des textes, ce sont simplement des corrections à des anciens textes. Donc on dit, tiens, dans la loi machin, l'article 16, il est annulé. Dans l'article 18, il faut rajouter un alinéa. Donc ça devient en plus illisible. Donc au niveau de la légitimité et de la désobéissance civile, si ça ne vous paraît pas légitime, je pense que effectivement il faut réagir, parce que la loi, de manière, elle est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Probablement c'est fait exprès d'ailleurs.
Anna.
Oui, merci de me donner la parole. Je vais essayer de répondre en étant assez succincte. Sur la première chose, c'est sur le principe de l'égalité, qui est le principe fondateur de toute démocratie, qui est un principe selon lequel on ne peut pas condamner une personne si l'infraction qu'on lui reproche n'est pas inscrite dans un code. C'est-à-dire que je commets un vol, si la définition du vol n'est pas inscrite dans le code, je ne serai pas puni. Donc ce principe de l'égalité, il est là pour encadrer le droit. Et sans doute parce que je suis avocat, mais je crois quand même que dans un système juridique, il est très important que les lois existent et soient écrites. Sinon, chacun pourrait revendiquer sa propre règle. Donc, c'est une règle qui s'applique à tous. Et ça, sur ce principe de l'égalité, je comprends bien le questionnant de Julien Assange, mais il n'y a pas une loi par individu. La loi, elle s'applique à tous, quel qu'il soit, qui réside sur le territoire. Sur la deuxième question, nul n'est censé ignorer la loi. On ne demande pas aux citoyens de connaître tous les codes par cœur, avec la Constitution, la loi, les règlements, les décrets, leurs modifications, leurs interprétations. Le principe veut dire que lorsqu'un texte est écrit et qu'il dispose qu'une infraction existe, par exemple, le citoyen se verra appliquer la sanction. Mais il n'est pas... Il sera interprété par le juge, ce texte, en fonction de la bonne foi du citoyen. On n'est pas condamné à connaître tous les textes, tous les codes. Même les avocats ne les connaissent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est savoir chercher, savoir comprendre. Voilà. Après, sur la désobéissance civile, c'est encore autre chose. C'est le fait de connaître le texte et de refuser, de s'y soumettre parce qu'on le considère contraire à sa propre morale et à ses propres convictions. Donc là, on interroge une autre question qui est le rapport du droit à la morale. Mmh. Mais c'est encore un autre débat.
Merci. Et alors, ce qu'avaient proposé ces petits étudiants que je trouve génial, c'est que chacun des représentants devrait être âgé pour moitié de moins de 40 ans. C'est vrai qu'on est dans une société où les politiques ne représentent pas, en fait, une classe d'âge. Les sénateurs, les députés, extrêmement âgés.
Sur la dernière élection, les élections européennes, on a quand même pu voir des candidats, la France Insoumise, 29 ans.
Ça change. C'est un principe d'équité qui, selon moi, selon mon bon sens, devrait être préservé, d'équité entre les hommes et les femmes. J'imagine qu'on aurait peut-être, j'ai le doux rêve, qu'on aurait peut-être un peu moins de guerre si le monde était géré par un petit peu plus de femmes.
Je ne sais pas, on a quand même Marine Le Pen au Rassemblement National, voilà, et c'est une femme, donc on peut se questionner quand même.
Est-ce qu'on est bien sûr? Juste un petit truc sur l'équité. On parle de très loin quand même. Là, je vais prendre un exemple sur le territoire. Donc, je parle de la loi. La loi française oblige à la parité. Élection municipale, par exemple, les listes sont soit un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Ça, c'est obligatoire. Or, maintenant, il n'y a quasiment plus de communes en France qui n'aient pas partie d'une communauté de communes. Pour notre territoire, ici, la communauté de communes, c'est Max, Marraine, Adour, Côte-Sud. Et donc la parité, de fait, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 représentants dans chaque conseil municipal qui vont siéger au conseil de la communauté de communes, on a de fait une parité au conseil communautaire. Mais ce n'est pas ce conseil communautaire composé de 53 personnes qui prend les décisions. Comme dans toutes ces assemblées, il y a ce qu'on appelle un bureau qui est fait de vice-présidents. Eh bien la loi, dans son infinie sagesse pour protéger les hommes, ne prévoit pas de parité au niveau de l'instance qui prend les décisions. Donc aujourd'hui à Max, alors que dans chacune des communes, de par la loi, il y a un nombre quasiment égal d'hommes et de femmes qui siègent, de même qu'au conseil communautaire, il y a 53 conseillers, alors je ne sais plus si c'est 27 et 26 ou 26 et 27, au bureau, il y a 15 hommes et 2 femmes. Donc voilà un exemple parfait d'une loi qui est d'une certaine matière illégitime parce qu'elle a été faite pour protéger les hommes. Et pour revenir au vieux, entre guillemets, j'en fais partie parce que j'ai bientôt 60 ans, on a un système de parti, un système dans lequel le politique doit être carriériste. Et donc fatalement, en bout de chaîne, on a des vieux qui siègent, qui ne sont donc pas représentatifs, qui passent donc des lois...
Quelle est la moyenne d'âge du sénateur? Tiens, je vais chercher...
Ouais, ça doit être au moins 60 ans.
Bon, pendant qu'on fait les recherches, on va mettre un peu de musique et on vous reprend tout de suite. Si un jour j'ai tombé.
Et bonne nouvelle, en fait, les voyages et les cadeaux reçus par les députés devraient bientôt être rendus publics.
Sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes. Sans violence, nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. De la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes.
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Faut bien, je m'y suis habituée. Alors.
Atmosphère, atmosphère, 102.3 avec nous ce soir. Et oui, nous l'avons vu en début d'émission, ce qui est légitime n'est pas forcément légal et vice-versa. Par ailleurs, nous sommes dans une société de paradoxes où l'on peut reconnaître le droit des arbres mais décider de ne pas inscrire le crime écocide dans le droit, où on peut aussi inscrire le droit de manifester qui est considéré comme un droit inaliénable dans la Constitution des droits de l'homme et puis l'interdire, limiter... cette possibilité, comme l'ont fait les députés en février dernier. On peut aussi voter l'anonymisation complète des policiers dans les procédures juridiques. On peut faire plein de choses, en fait. Ou au même moment, d'ailleurs, où notre cher président s'adressait aux Gilets jaunes, enfin, fin décembre, faire voter par le Sénat l'allègement de l'exit tax, qui est une loi votée en 2011, avec pour but de freiner l'exil fiscal. Donc, c'est évidemment... ombre et lumière, il s'en passe des choses. Mais pour rebondir donc avec Pierre, et j'aimerais que, évidemment, tu te présentes plus en avant, parce que c'est ce qui nous intéresse, quels sont les invités qui viennent à nous, mais ça, tu vas le faire, si tu es OK. Comment tu es venu à la finance, quel est ton petit bout de chemin, mais rebondir déjà avec ce que tu disais là en off, qu'est-ce qui s'est exactement passé avec ce fameux préfet. Où est-ce qu'on en est déjà?
Alors donc ce fameux préfet qui était donc impliqué dans les histoires de dérogation pour l'eau potable n'a apparemment, et avec lui d'autres personnes, pas du tout apprécié l'action d'un certain nombre d'élus. Mmh. Et il s'avère que j'avais mon nom en haut de la liste. Et donc j'ai fait l'objet de plaintes au pénal, ouais. Des plaintes en, que je dirais d'intimidation, ouais. Une étant une plainte pour outrage basée sur un document privé qu'il s'est procuré on ne sait comment, donc il s'agissait d'un recel du secret de la correspondance privée, donc sa plainte n'avait aucune chance d'aboutir et d'ailleurs elle a été classée, mais ça m'a quand même valu une convocation à 7h du matin à la gendarmerie avec menace de prise de photos et d'empreintes.
À ce à quoi tu as dit, bah écoutez, non,
j'ai
je
dit
ne
non.
Fais pas.
J'ai dit non, et trois jours après ou deux jours après, en atterrissant à Londres, j'avais un appel de la gendarmerie pour dire que cette affaire était classée. Donc il s'agit mm-hmm. clairement d'une intimidation. Mm-hmm. L'autre est presque cocasse parce que, en fait, on m'a accusé de. Et j'en suis très fier parce que c'est un délit qui a été introduit dans le droit français pour le deuxième retour de Napoléon. On m'a accusé de dissémination de fausses nouvelles de nature à créer la panique dans la population. Alors que je m'étais borné à faire des photocopies de l'analyse des eaux potables qui sont affichées en mairie. Donc c'est extraordinaire. Si c'est une fausse nouvelle, il faut s'en intéresser. Et puis si c'est de nature à créer la panique dans la population, il faut arrêter de les afficher en mairie. Et donc c'est pareil, cette plainte pour l'instant, ça fait pas mal de temps et elle traîne et il n'y a plus de nouvelles. D'ailleurs, je ne suis plus, et là je parle sous le contrôle de Anna, je ne suis plus l'accusé, je suis simplement témoin maintenant, parce que les gendarmes ont décidé que le délit était un petit peu bizarre et pas du tout constitué.
Ah, ok.
Donc voilà, mais tout ça pour dire que donc, dès l'instant où on s'agite un petit peu, où on essaie de faire valoir des droits, eh bien, on se fait intimider. Et ce qui est triste, c'est que donc, des hauts fonctionnaires, comme des préfets, utilisent les services de la gendarmerie. Tout ça est diligenté par le procureur pour donc intimider. Et bon, moi, je m'en sors bien parce que je n'ai pas perdu une main, je n'ai pas perdu un œil. Je ne me suis pas fait virer d'une salle d'audience, comme il vient d'être dit par Anna concernant une avocate à Paris. Donc, je m'en tire très, très bien. Mais néanmoins, ce sont des intimidations. Et bon, j'ai 60 ans, je m'en fiche un peu. Pour moi, c'est plutôt l'effet d'un chiffon rouge. Ça me motive encore plus. Mais c'est vrai que pour plein de gens, aller passer 3 heures à la gendarmerie, ça les empêche d'agir après parce qu'ils ont peur.
Ouais. Oui, je crois que concernant l'intimidation, Mediapart en a été victime aussi, puisque j'ai rencontré Edwy Plenel qui est venu nous raconter tout ça à l'Utopia à Bordeaux. Ils ont été victimes d'un début de perquisition dans un journal indépendant. Enfin, je crois que le ton est donné sur la politique pénale du moment.
Juste un dernier petit point sur les nouvelles lois, pour rebondir toujours sur ce sujet de l'égalité et de légitimité. Un point qui a échappé à beaucoup de gens, pas à moi et pas à certaines autres personnes, c'est que les lois qui ont été votées récemment sur l'état d'urgence, ce sont des lois, il faut que les gens soient conscients de ça, ce sont des lois qui n'introduisent aucune nouvelle mesure puisque l'ensemble des mesures étaient déjà prévues dans les 17 lois qui ont été votées avant contre le terrorisme. Ces lois n'ont fait qu'une seule chose, c'est d'appliquer toutes ces mesures à tout le monde. Avant, pour faire une perquisition à 2h du matin, on ne pouvait faire ça que chez un terroriste. Et bien maintenant, ça peut se faire chez moi. Il suffit que le préfet décide que je suis une mauvaise personne et voilà. Donc je peux avoir une perquisition chez moi. En fait, donc toutes ces lois récentes ne font qu'élargir ce qui était prévu strictement dans le cas d'enquête antiterroriste à l'ensemble de la population. C'est donc une première étape pour contrôler la population. La deuxième étant ensuite la suppression du cash, de l'argent liquide.
Est-ce que c'est le cas? Moi, j'ai le doux, quand même la douce intuition que, comme ils ne pourront pas faire des valises de black, à moins de les faire avec du bitcoin, mais enfin, ce n'est pas évident, ce bitcoin qui chute. J'ai l'impression que finalement, le cash ne partira pas.
Alors, il est déjà parti dans certains pays.
En Inde.
Non, il n'est pas parti en Inde.
Dans certaines régions.
Ils ont changé les billets en Inde, c'est différent.
Ils ont changé, mais il y a plein d'endroits en Inde où on ne peut payer qu'avec un téléphone portable dans des coins reculés du Rajasthan.
Alors, je ne sais pas si on pourrait vérifier, peut-être pendant un petit plage musical, mais je ne sais pas si c'est en Finlande. Il y a un des pays scandinaves qui a supprimé ou est en train de supprimer le cash. Et donc ça, c'est le rêve. Et ça, cette machine-là est en route. Il faut savoir, ceci dit, que le cash, qu'on appelle le cash, c'est-à-dire les pièces métalliques et les billets, ne représentent que 5% de la masse monétaire dans notre pays. Donc c'est relativement petit. Par contre, c'est un pouvoir extraordinaire que le simple citoyen a, puisqu'il peut, entre guillemets, se prémunir de certaines bêtises que pourraient faire nos gouvernants en se mettant un petit peu d'argent de côté pour pouvoir survivre si des choses catastrophiques arrivent.
Bon, ben on y viendra. Et ben pour faire face à toi...
J'ai fait la petite recherche, excuse-moi. Ouais, apparemment, on parle de la Suède, selon le Figaro. C'est la Suède où l'argent liquide a disparu.
Il y a, totalement, là ?
Bon, apparemment, ce n'est pas en question de loi, c'est plutôt en question de praxis. Donc, il y a personne qui l'accepte maintenant, donc les gens ne l'utilisent pas, mais ce n'est pas que c'est interdit. Selon l'article que je suis en train un peu de lire à la foule, comme ça, sur le Figaro, ils nous disent qu'à la fin, l'argent liquide, on ne la trouve plus. Mais ce n'est pas en question sur les textes législatifs.
Bon. Anna, toi qui es une... ancienne avocate, enfin, tu es toujours avocate, mais tu es reconvertie à la médiation. Tu m'as souvent dit qu'en fait, dans un état de non-droit, bah, la meilleure chose que l'on puisse faire, bah, c'est d'œuvrer de l'intérieur pour rendre la société plus juste. Tu étais d'ailleurs ce week-end au Festival Tempo du Monde, qui a intégré des jeunes migrants dans sa préparation. Et avant d'avoir ton point de vue éclairé bah, sur pas mal de choses, dont des dispositions touchant à la santé ou aux droits de l'enfant, j'aimerais déjà connaître ton parcours.
Ah. Mon parcours, alors j'ai fait des études de droit à l'université de Toulouse, en doctorat j'ai fait des études en droit des contrats et en droit privé en général, mais qui comporte bien sûr l'étude des libertés publiques, du droit public. Ensuite j'ai passé le diplôme d'avocat. Un petit peu avant, j'avais travaillé pendant 4 ans dans la magistrature, ce qui m'a permis de connaître l'institution de l'intérieur. Et j'ai eu la chance, la grande chance d'être en cour d'appel donc, et de travailler également à la première présidence à la cour d'appel de Paris, qui connaît des affaires un peu délicates. Ensuite, j'ai exercé pendant une dizaine d'années à Paris dans différentes structures. Ensuite, j'ai renoncé, je suis partie chez Amnesty International pour travailler plutôt sur les questions de droits de l'homme et plus précisément de droits de l'enfant et de discrimination. Donc, ça permet vraiment d'avoir un aperçu de l'application des traités internationaux dans le monde ou de leur non-application. Plus précisément, j'ai travaillé sur la question des enfants roms sous la direction de M. Valls. Donc là, c'était vraiment des questions très, très sensibles. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé ce travail à l'international. Donc, je me suis formée en médiation interculturelle, internationale et droits de l'homme, ce qui permet d'aborder la question du droit international et du droit national dans le cadre des conflits entre personnes de nationalités différentes ou de cultures différentes. C'est aussi une formation en médiation. La médiation, c'est un phénomène nouveau dans la gestion des conflits en France, en Europe et dans le monde, qui permet de s'affranchir des juridictions et qui permet aux parties de trouver elles-mêmes une solution à leur litige sans passer par le juge, de remettre du dialogue dans le conflit et de permettre aux parties d'arriver à une solution. C'est ce qui existait déjà en droit commercial, vous devez le savoir, quand on parle de transactions. Bon, ça s'est étendu aux questions de droit civil avec le divorce par consentement mutuel, mais on peut aussi maintenant faire appel à un médiateur, c'est-à-dire une personne neutre et indépendante qui va écouter chacune des parties et leur permettre de trouver une solution à leur litige sans que ce soit le juge qui prenne la décision et qui applique le texte, puisque là, les parties peuvent aussi creuser au fond dans leurs émotions, mettre à jour tout le conflit et trouver un accord. Sur la question de la médiation interculturelle, là on est encore sur autre chose, c'est d'arriver à créer un lien de sociabilité entre deux personnes ou des catégories de populations qui n'ont pas la même approche culturelle, et là on en rentre dans le domaine de l'interculturalité, sur des thèmes communs. Par exemple, en droit de la famille, par exemple, sur la famille, sur l'alimentation, sur des questions importantes. On sait que les approches ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre ou même d'une région à l'autre.
Ok, voilà. Merci. Je t'ai fait un peu bûcher et tu m'as dit, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'en parler, mais c'est des documents qui ont tourné, qui m'ont été renvoyés par une amie en préparation de l'émission. Espèce de projet international des droits sexuels de l'ONU qui encouragera à avoir une sexualité excluant la reproduction, une reproduction excluant la sexualité, et qui indique qu'en fait, à partir de 10 ans, les enfants pourraient jouir de droits sexuels.
ils auraient le droit de se faire valoir en justice pour faire valoir leurs droits sexuels. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? C'est des choses dont on entend parler.
Moi, je n'ai pas eu l'occasion de me pencher sur ce texte, mais je crois que pour l'instant, il serait totalement en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est une convention édictée pour protéger l'enfant, et notamment en relevant son intérêt supérieur, la protection de son intégrité physique, morale. Je crois que si ce texte venait à être mis en application, il serait directement en contradiction avec cette convention.
Donc on ne pourrait pas imaginer que tout d'un coup les droits de l'enfant soient révisés par un nouveau texte de loi des droits sexuels, puisque on vous avait parlé du fait que finalement les lois elles étaient faites pour être remaniées.
Et pour être révisées, mais il faudrait que les États y adhèrent.
Ouais.
Je vois mal la France adhérer à ce genre de texte, dans la mesure où aujourd'hui, la majorité, elle est à 18 ans. Elle descend à 13 ans sur les questions de délinquance. 10 ans, la majorité sexuelle pour un enfant. À cet âge-là, il n'est même pas audible par le juge sur des questions de séparation dans le divorce. Donc
c'est rassurant. Par contre, il y a eu plusieurs affaires où finalement, la majorité sexuelle, comme tu vois, ça tendrait à penser aussi que finalement...
Alors, les affaires, ce n'est pas la loi. Ouais. La jurisprudence, c'est un dossier. Tant qu'on ne connaît pas le dossier, c'est difficile de s'exprimer. Aujourd'hui, la majorité, c'est 18 ans.
Il y a eu certains viols dont on a reconnu que ce n'était pas des viols l'année passée, puisque...
Oui, on parlait de l'âge de consentement.
Voilà, l'âge du consentement.
Alors, ça, c'est toujours la même chose. Moi, je ne m'exprime pas sur un dossier que je ne connais pas, ni je ne reviens pas sur la décision d'un juge pour la commenter, ni critiquer la défense d'un confrère. Oui, on me pose souvent la question, est-ce qu'une mineure de 15 ans a pu donner son consentement ? Je crois que là, c'est des questions extrêmement sensibles. On n'est pas tellement sur la question du consentement, on est plus sur la question de l'intention de l'auteur. Est-ce qu'il y a une violence qui fait que là, on passe dans l'infraction de viol ? Donc là, on bascule dans le pénal. Mais ça ne veut pas dire qu'au plan civil, l'enfant ou la mineure ou l'adolescente a la majorité, c'est-à-dire qu'elle était d'accord pour participer à cet acte.
Oui, parce que finalement, c'est toute une question des définitions. Qu'est-ce qu'on entend pour sexualité ? Qu'est-ce qu'on entend pour... parce qu'on parlait de consentement par la sexualité et on ne parlait pas comme tout en train de dire. J'entends violence, j'entends pression.
Oui, là, on bascule dans le droit pénal. Donc, dès lors qu'on parle de viol, on bascule dans le droit pénal. Ça veut dire que, de part et d'autre, il n'y avait pas un consentement des deux côtés. Ouais. Maintenant, là, on passe à la question du consentement en droit civil. Est-ce qu'une enfant de 13 ans peut avoir envie d'une relation sexuelle avec un majeur ? Là, on passe sur une autre appréciation. Et ça, c'est le juge civil qui va discuter de
ça. Oui, en parlant de ça, ça me revient. J'ai lu un article aujourd'hui sur l'âge de la puberté. C'est de la puberté précoce. Comme elle a descendu, on parle des filles de 9 et 10 ans qui ont déjà... ils sont dans les périodes... Apparemment, c'est plus fréquent dans les femmes que dans les hommes. Mais il y a des cas aussi des hommes qui sont... puberté précoce. Est-ce qu'une puberté précoce nous amène directement à une maturité sexuelle ?
Non, parce que alors là, on peut aussi basculer dans les mariages forcés, les mariages précoces qu'on rencontre très souvent, ce qui a été le cas dans de nombreux dossiers que j'ai pu traiter à Paris auprès des mineurs d'origine africaine, par exemple, dans lesquels les familles dans lesquelles il est coutumier de marier sa fille très jeune. Non, en France, c'est pas possible. Donc on bascule vraiment dans une coutume qui ne relève pas de la coutume française. Une petite qui aurait 9 ans n'est pas disponible au mariage et n'est pas disponible pour un acte sexuel. Non, là, je pense qu'on est dans l'évidence.
Mais en tout cas, tu nous rassures, il semblerait que ce projet international ne soit absolument pas dans l'esprit de la loi.
Donc.
Alors, il faudrait peut-être aussi interroger une psychologue, n'est-ce pas, Caroline ? Mmh. Est-ce qu'une enfant de 13 ans a une maturité ?
Tout à fait d'accord.
Je ne sais pas si c'est l'avocat qui doit s'exprimer ou plutôt le psychologue sur le développement et le psychisme de l'enfant. À partir de quel âge ? Je me demande même si certains adultes à 20 ans ont la maturité pour entrer dans une relation. Voilà, donc là, je crois qu'on... Voilà, un non est un non, par ailleurs. Hein, et donc, une enfant de 13 ans qui n'ose pas dire non, là, moi, je questionnerais plutôt un psychologue qu'un juriste sur ces questions-là.
Mais le problème, c'est que ce sont les juristes qui font la loi.
Pour l'instant, cette loi, elle n'est pas...
Non, mais donc, tu nous rassures, elle semble caduque.
Je ne pense pas qu'en France, ce traité ferait l'adhésion de...
Bon. On reboucle sur les perturbateurs endocriniens, là. Hein, la puberté, dont l'âge diminue. C'est clairement perturbateur endocrinien, donc la plupart des pesticides, clairement, affectent un certain nombre de fonctions, dont les fonctions reproductives.
Mais évidemment. Et la viande boostée aux hormones, hein, ça c'est entre une évidence. Et l'eau, donc forcément. Mais Pierre, donc, tu es ancien capitaine dans la marine marchande.
Personne n'est parfait.
Second capitaine, tu m'as dit tout à l'heure.
Second capitaine.
Tu t'es retrouvé à la City, centre de la finance internationale mondiale,
Londres,
pour gérer un fonds international de 200 millions d'euros.
200 millions de dollars.
Dollars.
La vraie monnaie.
Puis comme tu le dis, après avoir compris certaines réalités sur la création de la dette ainsi que les bulles financières, tu as préféré te retirer, si on peut dire ainsi, pour éduquer les populations à la finance. Tu peux nous raconter un peu mieux ton parcours que je ne le fais déjà.
Ouais, très rapidement, effectivement, j'ai commencé par des études marine marchande et je voudrais juste donner l'anecdote pour laquelle j'ai fait ces études-là parce que ça peut peut-être aider un certain nombre de jeunes. À mon époque, quand on était en première, on recevait une petite brochure de l'ONICEP qui était censée nous aider à nous orienter. Et donc, il y avait des pages sur tout. Alors, pilote de Formule 1, pompier, militaire, infirmière. Et il y avait donc une page sur la marine marchande. Elle était blanche, elle était vierge. Et en haut, il y avait marqué « Aucun avenir ». Donc moi, comme j'étais extrêmement paresseux, et je le suis toujours, je me suis dit « S'il n'y a aucun avenir, personne ne va y aller ». Donc, si j'y vais, je serai le seul, donc ce sera facile. Et effectivement, je suis rentré là-dedans et c'était très facile. Et j'ai obtenu mes diplômes, donc brevet de commandant et chef mécanicien marine marchande. J'ai navigué. Et puis après, je suis allé travailler à terre. Ensuite, je suis allé travailler à l'étranger, en Australie, en Turquie et à Londres. Effectivement, comme vient de l'indiquer Caroline. Donc, j'ai commencé par travailler dans quelque chose de beaucoup plus grave qu'un fonds d'investissement, puisque j'étais patron de tous les transports maritimes d'une boîte bien connue qui s'appelait Enron. Qui a fait donc une faillite retentissante en fin 2001.
Ah ouais.
Ne le dites à personne. Hein. quelques années après, donc, j'ai effectivement démarré le premier fonds d'investissement spécialisé dans les transports maritimes que j'ai donc commencé à créer fin de 2004, ensuite toute l'année 2005 et qu'on a lancé, comme on dit en anglais, launch en anglais, en 2006. Et j'ai arrêté ayant prévu la crise financière de 2008. Parce que j'avais fait des recherches sur la création monétaire. Et là, je voudrais juste
parler. À quel moment tu te mets à faire des recherches
Alors,
tu vois, qu'est-ce qui te semble...
Le premier truc qui me titille, c'est quand je prends en main un billet de 20 livres, quand j'arrive en Angleterre, début 2000. Et dessus, il y a marqué, je vais le faire en français, parce qu'en anglais, ça va être un peu compliqué. Sur le billet anglais, il y a marqué « Je promets de donner à toute personne détentrice de ce billet la somme de 20 livres. »
Donc, c'est un billet de 20 livres.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas 20 livres. Et en fait, c'est là où j'ai découvert une chose horrible. C'est que dans la plupart des pays, le billet, même le billet, n'est pas de l'argent. C'est une reconnaissance de dette. Et donc, j'ai commencé à tirer la ficelle, la pelote. J'ai dévidé toute la pelote. Ça m'a pris longtemps. Et donc, j'ai compris que l'argent était créé, ce que l'on appelle ex nihilo. Ce qui, en soi, n'est pas un problème. Par contre, et là, je voudrais reboucler sur le consentement, ça a été fait sans le consentement. C'est-à-dire qu'en France, la loi... et dans la plupart des pays, et que la Banque centrale, et donc en France la Banque de France, a le monopole de la création monétaire. Or, subrepticement, année après année, cette création monétaire a été transférée sans que le Parlement ne se prononce jamais, donc sans aucun consentement de la population, sans aucun consentement de la Chambre, que ce soit le Sénat ou la Chambre des députés, cette création monétaire a été transférée aux banques privées. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une Clio d'occasion et que vous avez besoin de 5000 euros, eh bien, l'argent que vous allez emprunter, les 5 000 euros, au moment où elles apparaissent, ces 5 000 euros sur votre compte, eh bien, ils viennent de nulle part. C'est-à-dire que c'est le banquier qui les a créés. création ex nihilo.
Et moi, je suis complètement, analphabète, on peut dire comme ça en français, en finance. Donc, ça que tu viens de dire, parce que peut-être il a d'autres écouteurs aussi qui disent, ouais, de quoi il parle. Donc, du coup, ça veut dire que si ça n'existait pas et ça vient d'être créé, au moment donné, que les banquiers poussent le bouton, s'il y a plus d'argent, parce que moi, c'est... Écoutez, si on pêche beaucoup de sardines, et il y a beaucoup de sardines sur les marchés, les prix des sardines est moins cher. Je veux dire, la bonite ici, des fois, on laisse ça à 3 euros le kilo, parce que c'est la saison, il y a plein de bonites. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de billets, beaucoup de monnaies, beaucoup de chiffres dans les ordinateurs, beaucoup de prêts. Ça veut dire que tout, ça descend les valeurs?
Non, parce que, et ça a été la partie la plus difficile. Donc ça, en gros, la création monétaire par la banque qui appuie sur le bouton lors d'un prêt, ça, je l'ai compris à peu près en 2007-2008. Par contre, ce que j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre et que mon collègue dans ce domaine-là, Maurice Barraguet, a mis beaucoup moins de temps à comprendre que moi, c'est la destruction monétaire qui est le corollaire de la création. Autrement dit, les 5000 euros que vous avez empruntés pour acheter une Clio d'occasion,
ils doivent disparaître,
lorsque vous les remboursez, au fur et à mesure que vous les remboursez, ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc en fait, le stock d'argent, tout ce qui a été prêté, disparaît lors du remboursement. Mais... Et c'est là le gros problème. Il y a eu des intérêts en jeu. Parce que la banque, contrairement à un boulanger qui, lui, trouvant la farine et tout gratuit sur sa porte le matin, vous ferait peut-être la baguette moins chère, la banque qui trouve l'argent gratuit, en fait, ne vous le fait pas moins cher. Elle vous fait payer des intérêts. Elle ose vous faire payer des intérêts alors qu'elle crée l'argent. Donc, lorsque vous avez créé ces 5000 euros, vous l'avez fait contre, on va dire, 500 euros d'intérêt. Mm-hmm. Ces 500 euros n'existent pas encore. Il va donc falloir que quelqu'un d'autre emprunte pour créer ces 500 euros, pour qu'ils rentrent dans le système, pour que vous puissiez payer vos intérêts.
C'est complètement éphémère.
C'est une machine infernale pour une raison simple. Il y a une relation très simple entre le PNB d'un pays et la masse monétaire. Là, c'est une équation d'une simplicité biblique. Mm-hmm. PNB du pays est égal à la masse monétaire multipliée par la vélocité, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle l'argent circule.
Ah.
Donc, si vous avez une diminution de la masse monétaire, vous avez une diminution du PNB. Donc, ce système de création monétaire impose, et ça c'est très important, surtout lorsque vous écoutez des politiciens, ce système de création monétaire impose une dette permanente, mais une dette permanente qui augmente, parce qu'elle doit au moins augmenter du montant des intérêts.
Alors explique-nous mieux ça et comment ça se passe déjà historiquement, quand tu dis, ok, donc l'argent est une monnaie fictive, papier monnaie, c'est ce qu'on nous apprend quand on est gamin à l'école. On fait tourner la planche à billets, la première crise, 1920-29. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment progressivement on arrive à cet état de fait? Moi, j'avais entendu parler de la loi Rothschild, 73. Qu'est-ce qui se passe, en fait, historiquement? Comment la bourse entre en jeu et comment on en arrive déjà à cet état de fait?
Alors ça, c'est la partie que normalement Maurice fait, toute la partie historique. C'est la partie que Maurice Barraguet fait, parce qu'on a fait des présentations ensemble. On a fait une présentation au casino de Saint-Jean-de-Luz. On a fait une présentation dans un restaurant à Bordeaux. On a fait des présentations à Tarnos, présentations un petit peu, enfin dans différents endroits.
Donc c'est ton acolyte pour éduquer
C'est mon acolyte qui a donc trouvé, lui, les mêmes résultats, mais en partant d'un cheminement plus tardif, mais beaucoup plus rapide que moi. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire. Juste une chose, par contre, parce qu'il y a un mythe qu'on nous a tous appris, qui est que, au début, on se jetait des cailloux, et puis on a commencé à s'organiser un petit peu, et puis on a fait du troc, et puis après le troc, on a trouvé que c'était pas très pratique, donc on a un peu inventé des espèces de trucs qui ressemblaient à de la monnaie, et puis après la dette est venue. Tout ça pour nous faire croire qu'en fait, c'est une évolution, et que donc la dette qu'on a aujourd'hui est un aboutissement qui est inéluctable pour des gens sophistiqués. Alors que toutes les recherches prouvent que tout a commencé par la dette. Donc il n'y a pas eu cet enchaînement-là. Déjà, il y a 5000 ans, on a retrouvé des preuves donc, que le système était basé sur de la dette. Et ce qui est très intéressant, et qu'évidemment nos gouvernants ne veulent pas que l'on comprenne, c'est qu'à cette époque-là, il avait déjà été compris que la dette doit être annulée de temps en temps. Puisqu'en fait, le système que l'on a ne peut faire qu'augmenter la dette. Et donc, le seul moyen, c'est de remettre les compteurs à zéro de temps en temps.
Et la proposition de Kadhafi ou de certains pays d'Afrique riche, c'était d'indexer en fait la monnaie sur de l'or. La monnaie est sur les richesses, sur le diamant, de créer une monnaie panafricaine.
Alors, c'est ce qui était avant. Pendant de nombreuses années, on a eu ce qu'on appelle l'étalon or. C'est-à-dire qu'il y avait tant de grammes d'or était égal à un dollar, tant de grammes d'or était égal à un franc français, 30 grammes d'or était égal. Ça a d'autres gros désavantages. Comme je disais plus tôt, Et dans le cadre de cette émission, qui est malheureusement beaucoup trop courte, la création ex nihilo, c'est-à-dire créer de l'argent de nulle part, en soi n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de l'avoir donné aux banques, qui, elles, s'enrichissent avec ça et qui, donc, ont un pouvoir extraordinaire.
Quand est-ce qu'on donne ça aux banques privées, quand même, à quel moment?
Alors, ça s'est fait insidieusement au fur et à mesure des années. J'encourage les gens à aller sur Internet pour se renseigner sur la votation sur la monnaie pleine en Suisse. Donc, il y a des gens en Suisse qui se sont aperçus que dans la Constitution suisse, qui date de 1800, je ne sais plus combien, 62, il était écrit que la BNS, la Banque Nationale de Suisse, avait le monopole de la création monétaire. Et donc, ils se sont aperçus comme moi que c'était les banques commerciales. Donc, ils ont dit, bah oui, mais on va chercher la loi. Alors, moi, j'ai demandé la loi. J'ai écrit à M. Larcher. Je l'ai rencontré. Je lui ai demandé, bah, la loi, elle est où? Ben, il n'y en a pas. J'ai écrit à tous les responsables politiques qui se sont présentés à la présidentielle en les alertant là-dessus. Et donc, le problème, ce n'est pas trop la création ex nihilo, c'est que ce soit les banques qui le fassent. Il y a une autre méthode, c'est par exemple de créditer le compte de tous les Français d'une certaine somme tous les mois. Le gros intérêt, c'est que ce ne serait pas de la dette. Donc, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, la machine infernale ne serait pas la même. N'ayant pas d'intérêt, la dette ne serait pas obligée d'augmenter. Et juste pour conclure, parce que je ne veux pas monopoliser tout le temps, il y a quand même une chose extraordinaire. Quand vous entendez des hommes politiques ou des femmes politiques, soyons équitables, vous racontez qu'on a trop de dettes, qu'il faut baisser la dette, ce sont des menteurs, puisqu'elle ne peut pas baisser. Si elle baisse, notre PNB baisse. Donc, ils nous vendent en même temps la croissance et la baisse de la dette. C'est simplement, dans le système actuel, hein, c'est simplement impossible. Ou alors, donc, soit ce sont des menteurs, soit ce sont des idiots.
J'ai lu récemment que... notre pays, la France, était endettée à 97% de son... un peu plus ? Oui, voilà. Ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne européenne, mais bien en dessous des États-Unis qui, eux, sont à plus de 120 ou 130. Est-ce que, finalement, ce n'est pas une façon de nous culpabiliser ou de justifier un régime d'austérité, si on suit votre raisonnement ? Et la deuxième question que je me pose, c'est, finalement... inciter le citoyen à consommer, puisque aujourd'hui tout tourne autour de la consommation et donc de l'endettement, est-ce que ce n'est pas le levier utilisé par les banques ou par certains lobbies pour justifier, encore une fois, la politique d'austérité qui est menée actuellement, et donc, en conclusion, de laisser le citoyen sur la paille et de s'enrichir? C'est une question, parce que je ne suis pas du tout de formation économiste.
Au niveau des faits, c'est tout à fait vrai. Premièrement, nos sociétés sont basées sur la consommation. Aux États-Unis, 80% du PNB, c'est de la consommation finale. En Europe, c'est un peu moins. C'est à peu près 70%.
C'est du crédit, surtout. Du crédit à la consommation.
Oui, mais le crédit, c'est juste un moyen. C'est un moyen pour acheter des choses. Mais si on prend l'économie, c'est un ensemble. Donc en France, le PNB, c'est 2000 milliards d'euros. Eh bien, il y a 70%, c'est-à-dire 1400 milliards d'euros, qui sont des dépenses de consommation. C'est-à-dire de choses de consommation.
C'est quoi le reste?
Alors le reste, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. Ce sont donc des entreprises qui achètent des machines, ce sont des infrastructures. Donc, mais 70%, c'est de la consommation. Donc ça, c'était la première partie de la réponse. Effectivement, nous sommes dans une société de consommation. D'autre part, cette consommation ne peut être là que parce qu'il y a de l'argent pour l'acheter. Or, l'argent, c'est créé par la dette. C'est créé par la dette. Et la dette, depuis toujours, a été reconnue comme étant un outil d'asservissement des peuples. Vous êtes extrêmement docile quand vous êtes endetté pour 30 ans et que si vous n'êtes pas docile, vous vous faites virer et vous perdez votre maison. Et je voudrais juste finir sur un exemple extraordinaire. Et ce n'est pas tout à fait les bonnes nouvelles du début de l'émission. Il faut savoir que la crise de la Grèce, en fait, nos amis hommes politiques et banquiers européens ont décidé de sacrifier la Grèce pour préserver les bonus des banquiers. Autrement dit, les bonus de la SocGen, de BNP Paribas, du Crédit Agricole, de RBS, de Deutsche Bank, de toutes ces banques-là, ont été préservés sur le dos de la Grèce, laquelle se retrouve après la crise avec 4 fois plus de dettes qu'elle n'en avait avant la crise. Donc en fait, ça c'est un transfert gigantesque d'argent uniquement au bénéfice des banques européennes.
Et du coup, quelle serait la solution pour éviter parce que nous, les avocats, on a des systèmes pour permettre aux personnes surendettées de sortir de cette situation. Quelle serait une solution plus globale pour limiter cette dette?
Alors là, il faut faire attention, on parle de deux dettes différentes.
Non, d'éviter cet endettement, c'est-à-dire cette consommation à outrance.
Oui, mais là, on parle de choses différentes. Il y a la dette que monsieur, moi par exemple, ou Anna, peut contracter, Ça, c'est une dette. Mais il y a la dette globale qui résulte du fait du mécanisme de la création monétaire. Donc, pour celui-là, moi, j'ai une solution. Elle est très simple. C'est donc de créditer le compte de chaque habitant de chaque pays d'une certaine somme. Et là, que les gens ne s'excitent pas, parce que j'ai fait les calculs, ce sont des petites sommes.
Ouais.
On parle de quelques centaines d'euros par mois. Alors, je sais que pour quelqu'un qui est au RSA à 400 ou 500 euros par mois, c'est une grosse somme. Mais dans l'absolu, ce sont des petites sommes. Mmh. Donc ça, ça permettrait de régler cette espèce d'emballement de la machine pour revenir aux 2000 milliards d'euros de PNB de la France et de l'endettement qui est égal à 100% de ça. Il ne s'agit que de l'endettement public. Ça, ce n'est que l'endettement de l'État. Ce n'est pas l'endettement des ménages, ce n'est pas l'endettement des entreprises, ce n'est pas l'endettement des banques, qui est absolument pharaonique. Il faut savoir que sur ces 2000 milliards d'euros de dette, puisque la dette du pays ou public équivaut à 100% du PNB, 1400 milliards d'euros représentent les intérêts payés par l'État au titre des emprunts que l'État a fait depuis 1973 à des banques privées, puisque depuis 1973, il est interdit à la Banque de France de financer l'État français.
C'est ça, c'est la fameuse loi.
C'est extraordinaire, ça.
C'est incroyable.
Même la mafia n'a pas trouvé un système plus... c'est extraordinaire, quand même. 1400 milliards sur 2000 milliards de dettes d'aujourd'hui, c'est la somme des intérêts que l'État français, donc nous tous, avons payé aux banques privées pour leur emprunter de l'argent depuis 1973.
Ouais. Bon. Ça me rappelle... pour les gens qui ne sont pas chiffres, parce que des fois, ça nous s'échappe. Il y a plein de personnes que directement, il y a tellement de chiffres, je ne comprends rien, je me bloque. Mais ça m'a rappelé la façon que tu as raconté tout ça. Ça m'a ramené un livre de Michael Land. C'est celui qui avait écrit l'histoire sans fin, qu'on connaît tous. Voilà. Il a écrit un bouquin à l'époque, que c'était en 1973, qui s'appelle « Momo ». Et Momo, c'est une petite fille un peu étrange qui est dans une ville. Et dans cette ville, il commence à arriver des sommes grises. Dans ces sommes grises, il parle de la même façon que tu parlais tout à l'heure de l'argent, mais il parle du temps. Donc il commence à dire aux gens, mais écoute, il faut que tu économises du temps pour après, pour plus tard. Donc les gens, ils commencent, tous les citoyens commencent à essayer de faire plus vite. La coiffeuse commence à essayer de coiffer plus vite pour avoir du temps. Dans les sommes grises, ils arrivent avec leur cahier et notant les temps que tu as économisé aujourd'hui. Donc sur tes 24 heures, tu as très bien fait parce que tu as travaillé plus vite, tu as 5 heures de plus, tu as économisé. Mais donc du coup, c'est toute une fallacie, c'est toute une boule. Ça n'existe pas parce qu'à la fin, tu te rends compte, lisant les textes, que c'est tout. Donc, c'est quand même, il faudrait qu'on prenne vraiment conscience de ça qu'on est en train de faire.
Mais c'est la puissance du système, c'est que c'est tellement énorme. C'est tellement énorme que la première réaction de la plupart des gens, c'est de ne pas le croire. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé au cinéma Le Rio à Cap-Breton il n'y a pas longtemps. J'avais amené des copies.
Donc, on organise des ciné-débats, voilà, et on a fait un film sur les bulles financières, voilà, où tu as intervenu.
Et donc, j'avais amené des copies que j'avais imprimées d'Internet du site de la Banque de France pour pas qu'on m'accuse d'être un complotiste. et donc, c'est parfaitement trouvable. Donc, si vous tapez sur Internet Banque de France, création monétaire, vous allez tomber sur deux documents, un de 2015 de mémoire et un de 2016, de 2017, qui expliquent ce mécanisme. Et notamment, il y en a un qui explique bien
Oui, je l'ai lu, mais je me suis endormie parce que je me suis dit, c'est...
c'est trop énorme.
C'est trop énorme.
Mais la Banque d'Angleterre publie les mêmes documents et la Fed, donc la Banque centrale américaine, publie les mêmes documents. Mm. Donc en fait, c'est un système généralisé, mais qui est tellement énorme que la première réaction, et c'est ça qui est extraordinaire, la première réaction, c'est que les gens disent, oh non, c'est trop énorme, c'est pas possible.
C'est impossible.
Mais là où c'est triste, c'est que donc j'ai envoyé une lettre à Benoît Hamon, à Jean Lassalle, à Asselineau, à Mélenchon, à Le Pen, enfin tous les candidats à la présidentielle. Et je n'ai reçu que trois réponses, dont une seule intelligente. Et j'attends les autres.
Ok. Ah, peut-on rêver d'un monde sans argent ? Peut-on rêver d'un monde où le cœur a valeur sur la peur ? J'y crois. Une dernière petite info quand même sur les prêts abusifs de la Chine aux pays pauvres, incapables de rembourser. Eh bien, il y a de nombreux pays, dont le Sri Lanka, qui doivent céder totalement leurs infrastructures et ressources naturelles à leurs créanciers. C'est ce qu'on s'est passé pendant la crise des subprimes, en fait. Les gens ont été foutus à la porte de chez eux. Donc, juste pour savoir les faits, récemment, donc à Bercy, le ministère des Finances a accueilli mardi dernier les ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales et responsables de 45 pays pour évoquer l'endettement préoccupant de plein de pays en voie de développement. En fait. Donc, ils disent qu'ils comptent faire pression sur les créanciers qui abusent de leur position de force. Bon, on voit qu'en fait, c'est ce qui génère la politique. C'est le fait que des créanciers soient en position de force.
C'est ça.
On va écouter un peu de musique pour se détendre.
On va écouter Dire Straits, Money for Nothing. Et voilà, comme ça, on aura le temps de digérer toute cette information. Oh,
the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. That's his own head. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing.
passer. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer d'atmosphère.
Changeons d'atmosphère avec les bonnes nouvelles.
Atmosphère, atmosphère, 102.3, ce qui est légitime est-il légal? C'est une grande question. On est ravis ce soir avec ma vie d'avoir Pierre et Anna à nos côtés. Alors une petite info avant de continuer avec ces interviews qui sont vraiment passionnantes, qui touchent à vos parcours de vie et puis ce que vous pensez de l'actualité. Ben moi j'aimerais partager ça parce que je sais que certains de nos auditeurs se posent des questions à ce sujet. Donc le collège de Cabreton, Edmond Rostand, va en effet être désamianté parce qu'il est plein d'amiante. J'ai reçu une lettre du département des Landes le 13 mai. Donc, il m'indique que j'interroge la collectivité sur le chantier de restructuration du collège et qu'en effet, c'est un chantier important qui représente une dépense d'à peu près 17 millions d'euros et que donc, l'objectif, c'est zéro amiante. Donc, il y a bien de l'amiante parce qu'au début, on m'a dit, mais tu es folle, que racontes-tu? Puisqu'évidemment, les équipes éducatives n'étaient pas au courant, les équipes techniques, les parents non plus. Donc, moi, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je l'ai entendu, ça devait arriver à mon oreille. J'ai un peu bougé ciel et terre. Donc, c'est finalement un chapitre en plusieurs actes. L'info, en fait, elle a fuité lors d'une réunion de présentation du collège. Je ne sais pas pourquoi, comment un parent était au courant, fort heureusement, puisque sinon, ça se serait passé dans l'opacité la plus totale. Donc, par la suite, c'est ma voisine qui rentre. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être à cette réunion qui a été faite à l'école, en fait, de Osgore. Et ma voisine, qui est finlandaise et plutôt alerte et intelligente, était hyper surprise puisque donc du coup le directeur complètement décontenancé dit en mode je gère mon bateau. Oui, mais c'est en effet un gros projet, mais pas de problème. Forcément, il doit gérer son bateau qui coule peut-être, mais ça va être fait en présence des élèves pendant 4 ans. Et ça n'a jamais été fait dans l'histoire de France. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis, il y a peut-être une raison pour laquelle ça n'est jamais fait, le chantier, en présence des élèves. Donc, il présente le chantier. L'idée, c'était d'empaqueter, de faire un peu comme un toucher-couler des bâtiments de façon progressive. Mais pour autant, et de mettre les élèves dans des algécos dans le centre de la cour. Et de procéder, étape par étape, au bâtiment. Mais enfin, toujours est-il que les élèves, qui sont des mineurs, vont être présents sur le chantier pendant 4 ans.
Et n'oublions pas aussi les personnels. On parle des 700 élèves, plus des 100 employés.
Voilà, donc ça touche. Donc, mais évidemment, il y a les équipes éducatives et techniques, évidemment. Donc, du collège à la mairie, en passant par le département et le député, moi, j'ai commencé à contacter un petit peu tout le monde, et tout le monde s'est renvoyé la balle. Puis, il y a eu cette fameuse lettre du département qui me dit tout est ok, 17 millions sont engagés. Or, moi je me dis nos vies valent peut-être plus que leurs millions. Donc, et puis surtout, le Bureau de protection des populations, donc, comme c'est écrit sur la lettre, semble sous-entendre que nous ne serons pas sur le chantier. Mais encore heureux que les élèves ne seront pas dans le bâtiment au moment où les murs seront défractés. Par contre, ils vont être présents sur le chantier. Et la réglementation en vigueur indique bien qu'en fait, il ne doit y avoir aucun mineur sur le chantier. Et puis on a aussi, en termes de lobby, et c'est mon père, mon gentil papa avocat, qui m'a envoyé ça il y a 2 jours, ça vient de tomber dans UFC Que Choisir. Il y a donc 50 millions de consommateurs, un article en fait sur les lobbies, les groupes de pression, où pour gagner à sa cause, des hommes qui gouvernent sont accompagnés de gens qui sont dans l'antichambre du pouvoir. Et il y a un très très beau chapitre qui s'appelle « Amiante, la mort au bout du lobby ». Voilà, parce que c'est un exemple particulièrement tragique qui est celui de l'amiante, qui montre que l'influence que peuvent avoir ces lobbies sur les politiques de santé publique. À savoir que depuis 1970, en Grande-Bretagne, il y avait une mise en place d'une réglementation extrêmement stricte au sujet de l'amiante, parce que les politiques savaient très bien les pouvoirs en place. Comme c'est le cas en Finlande, pour revenir à ma fameuse voisine qui m'a dit, mais écoute, en Finlande on désamiante depuis 30 ans mais on ne désamiante jamais en présence des élèves ou des usagers des hôpitaux. C'est une politique qui est mise en place depuis longtemps. Or en France, en fait, il y a eu carrément un cabinet de lobbying, là, le CES, qui s'est été mis en place et puis qui mettait en place des actions de communication qui prenaient la forme de mesures de santé publique, voilà, et puis carrément un truc qui s'est appelé s'appelait le comité permanent de l'amiante. C'est une espèce de structure informelle qui tenait une espèce de légitimité avec des représentations d'organisations patronales, des scientifiques, etc. Mais comme le ministère du Travail fonctionnait très bien avec le CPA, ben d'une manière générale, ces membres faisaient primer les questions d'emploi sur celles de la santé. Voilà. Et puis, dans la mesure où les effets de l'amiante se font sentir qu'au bout de quelques décennies, ben cela ne posait de problème à personne. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas parce qu'à l'heure actuelle, il y a une double réglementation. Il y a plein d'entreprises françaises qui, évidemment, ne bossent plus avec l'amiante. Mais dès lors qu'elles travaillent à l'étranger dans des pays en voie de développement où il n'y a aucune réglementation, allons-y gaiement, ils y vont. Hein. Donc, il y a quand même des cas assez inquiétants dans l'histoire de l'amiante. Donc, elle est quand même, depuis 1995, totalement interdite, puisqu'il y a eu de nombreux cas de cancer de la plèvre qui ont été reconnus. Mais parfois, 40 ans plus tard, à Jussieu, il y a quand même 45 élèves et enseignants dont il est reconnu que la mort est due à une surexposition à l'amiante. Donc, c'est pas rien, la fac de Jussieu, ça pose problème. Donc, j'ai un peu activé, comme vous l'avez vu, dans tous les sens, cherché, contacté l'association des parents d'élèves. Donc, dont on m'a dit qu'ils ont fait la demande pour récupérer le dossier technique amiante, le plan de retrait amiante, contacter l'inspection du travail, donc c'est plutôt pas mal, qu'il devrait y avoir une réunion d'information du chef d'établissement qui ne souhaite pas me voir parce que je ne suis pas encore, mon fils devrait rentrer l'année prochaine, donc ils ne vont pas s'emmerder avec une qui n'a pas encore et qui est la seule qui a l'air de s'inquiéter, mais où apparemment il a dit qu'il souhaitait faire juste un peu avant le chantier. Donc il y a une telle opacité, évidemment, qu'il n'y a pas de consentement qui peut être éclairé. Donc c'est ça qu'on observe, c'est qu'il y a un brouillage d'informations et que bien plus que le principe de précaution, c'est le principe de prévention que l'on doit observer.
C'est ça, c'est la même chose.
Voilà, un principe qui s'appuie sur l'article de la mise en danger de la vie d'autrui, sur le fait que le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, eh ben elle est bien sûr punie d'emprisonnement. Voilà.
Ouais, c'est la même chose que les pesticides que Pierre parlait tout à l'heure.
Voilà, absolument. C'est la même chose.
Là, il y a une leçon qui est très intéressante.
Oui.
Il y a une leçon qui est très intéressante, c'est la découverte fortuite. Puisque comment j'ai découvert que l'eau était contaminée dans notre territoire ? Un jour, j'attendais à l'entrée de la mairie, et donc je lis cette fameuse analyse qui est punaisée, sachez-le, ceux qui nous écoutent, là, c'est punaisée à l'intérieur de la mairie, dans le hall d'accueil. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention en bas, une phrase en français. Il y a marqué « eau hors limite oui. », néanmoins sans danger, néanmoins les travaux devront être faits pour remédier à ça. Donc je les ai appelés tout de suite en disant « écoutez, je ne suis pas scientifique, par contre, il y a un problème de contradiction ». Donc, la découverte fortuite, ça, c'est un point commun. La deuxième chose, des gens qui creusent. Et ça, ils n'aiment pas. Mais je voudrais élever un tout petit peu le débat sur la situation générale de nos institutions par rapport à ces problèmes-là. Bon, moi, je vais avoir 60 ans. Donc, je me souviens, j'ai entendu parler du talcum orange et de la thalidomide. J'ai entendu parler du sang contaminé.
C'est exactement ça.
L'amiante, le tabac, la dépakine, le médiator, les prothèses PIP. À chaque fois, l'État est au courant. Pour les pesticides, c'est extraordinaire. Il y a eu à chaque fois des AMM, des autorisations de mise sur le marché des pesticides. Oh, il n'est pas dangereux celui-là. 5 ans après, on découvre qu'il est cancérogène. On le retire. Mais on ne le retire que quand une nouvelle molécule est là pour le remplacer, qui, elle, évidemment, n'est pas dangereuse. Et c'est l'État qui le certifie. Mais 5 ans après, on la retire parce qu'elle est dangereuse. Donc, dans notre territoire, pour ceux qui connaissent l'agriculture, on a eu ainsi l'atrazine, l'alachlore, l'acétolachlore, le métolachlore et le S-métolachlore, qui sont à chaque fois des saletés qui ont obtenu le tampon d'approbation des services de l'État avant d'être mis dans la nature. Et donc, il y a cette espèce de cercle infernal où l'État est parfaitement au courant. Le sang contaminé, c'est prouvé maintenant. L'État est au courant.
Ah oui, oui. Donc, moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'étais enfant. J'ai même imprimé, tu vois, parce que c'était vraiment... Pour moi, c'est en lien direct, en fait, cette opacité concernant... des mesures de santé préventives qui sont inévitables. C'est-à-dire que de 84 à 85, bah, des produits sanguins, dont certains étaient contaminés par le HIV, ont été vendus pendant des années. Et il y a le Premier ministre qui s'était retrouvé sur le banc des accusés, deux autres ministres.
Georgina Dufoy, voilà, responsable mais pas coupable.
Et dans ces cas-là, où tout le monde, c'est une évidence qu'il y a un danger évident et qui peut éclater à un moment donné, En parlant aussi des désobéissances civiles, moi, ce que je me trouve, parce que moi, j'étais enseignante Jean Rostand jusqu'à février, et je suis maman d'un élève qui est au collège. Donc, j'ai parlé aussi, j'ai croisé M. Dourdan pour lui parler un peu. Donnez-moi votre point de vue, vu qu'il n'y a aucune information. Donc, vite fait, il m'a renvoyé, il m'a dit, mais nous, on n'est pas les propriétaires de bâtiments. Ça, c'est la communauté de communes, ça, c'est les départements. Donc, j'ai laissé appeler, j'ai eu les chefs de travaux du département de...
Au niveau du département, Jean-Marc Sénat. Quoi.
Voilà. Et il était très, très nerveux au téléphone. Il m'a appelé. Normalement, tu attends des appels. Au moment donné, quand on a dit radio, médias, amiante, collège, voilà, il ne savait plus où se mettre.
Il
ne
savait pas que tu étais ma copine, parce que moi, ça fait deux mois qu'il doit me rappeler. Ouais.
Médias, il décroche.
Après, j'ai eu aussi j'ai croisé un ancien collègue de collège, Jean Rostand, qui m'a dit, bon, on a finalement reçu en lettre, mais c'est en lettre très vague, où il nous disent la même chose qu'ils nous disent à nous. Bon, ne vous inquiétez pas, il a des procédures, on ne sait rien. Il y a éventuellement des traces, mais
non,
voilà.
Mais il a pas éventuellement, hein. Moi voilà, j'ai la lettre. Voilà, donc
qu'est-ce qu'on fait, Anne, dans ces cas-là? C'est
on
quoi
constitue
notre option?
Un dossier, ouais, et on prend un avocat. La première chose, c'est de chercher les responsables. Donc on prend le responsable de chantier, le propriétaire. On garde ses preuves, celles que tu nous montres là, mm-hmm, Caroline. Et puis, on engage une action préventive, éventuellement un référé, pour empêcher la mise en route des travaux et de demander que
donc
soit...
Comment on fait pour engager un référé? Explique-moi, c'est
avocat.
Pas évident.
Ben, alors,
un avocat,
on va voir un confrère.
D'office,
on va chercher un confrère qui est spécialisé sur ces questions-là. On expose le problème et on engage en... Le référé, c'est une procédure en urgence. On peut le faire quand on craint un danger.
Oui, quand il y avait lieu pour le désensablement du lac.
Voilà, mais il faut qu'il y ait une évidence. C'est-à-dire qu'on rapporte la preuve que ce danger existe.
C'est-à-dire qu'on a des éléments de jurisprudence. Moi, j'ai pas mal enquêté. Voilà, la Cour de cassation, elle a même retenu qu'un bailleur avait commis une faute grave en n'assurant pas à son locataire, ne serait-ce que la jouissance paisible de ses locaux, alors qu'il y avait des travaux de désamiantage.
Oui, alors là, on est sur une procédure civile, mais si on parle de mise en danger, on arrive tout de suite au pénal. Ouais. Donc là, on dépose une plainte.
Mm-hmm. Voilà. Mais là,
avec constitution de partie civile, on peut se constituer en association de parents.
Sauf que là, c'est le département, donc c'est droit administratif.
Oui, mais on est quand même au pénal. Oui. Et les personnes publiques ont aussi une responsabilité pénale.
Sauf que, c'est un petit truc que j'avais noté dans mes notes en préparant. Ouais. L'État en a assez, et les collectivités en ont assez de perdre au tribunal administratif, qui, comme le dit justement Anna, a jugé de plein de choses, du pénal, du civil, un tas de trucs. Mais comme la contrepartie est administrative, est une collectivité territoriale, ça se fait au tribunal administratif. Et comme ils en ont assez de perdre, eh bien, il y a un juge administratif qui a sorti une jurisprudence extraordinaire, qui a écrit un jugement qui est devenu une jurisprudence, qui est extraordinaire. Ça s'appelle la jurisprudence d'Antony, pas comme la ville. Hein. Donc, ce n'est pas D'Antony, c'est d'Antony en un seul mot, du nom de la personne qui avait porté plainte, ou plutôt qui avait fait une requête au tribunal administratif. Et ce juge dit un truc extraordinaire. Il dit, oui, bon, d'accord, alors on va prendre par exemple le département. Oui, d'accord, ils n'ont pas suivi les règles et les procédures, mais bon, s'ils l'avaient fait, le résultat aurait été le même. Donc, vous perdez. Mmh. Alors que ce qui nous sépare, notamment en termes juridiques, nous, pays dit développé d'une république, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais bananière, c'est justement le formalisme. Or là, ils s'affranchissent du formalisme en disant que de toute manière, s'ils avaient suivi le formalisme, eh ben, le résultat aurait été le même.
Moi, ma demande, sachant qu'il va y avoir voilà, le fameux collège dans Grèce, frais et neuf, d'ici un an à deux, bah, qui déménage donc toutes les équipes, et puis tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Ils veulent
gagner de l'argent, faire un coup que coûte, absolument ce chantier en présence des élèves, ça me semble.
On ne sait pas quel est le périmètre de sécurité, on ne sait pas quelle est la mesure d'amiante dans l'air, on ne connaît rien.
Quand on connaît la complexité d'un chantier de désamiantage, les combinaisons de spationautes que doivent...
Mais c'est ça.
Et puis surtout quand on connaît les pratiques de pas mal de collectivités territoriales qui vont faire un appel d'offres et qui vont aller au moins 10 ans,
évidemment,
c'est-à-dire qui vont avoir des ouvriers mal formés, on peut craindre effectivement qu'il y ait des entorses très graves aux procédures extrêmement strictes d'un chantier de désamiantage, extrêmement strictes même quand le bâtiment n'est pas occupé. Là, ça va être bien plus puisqu'il sera occupé ou à proximité.
Les élèves, heureusement, ils ne sont pas dans le bâtiment.
Déjà, c'est un bâtiment qui est complètement saturé d'élèves parce que bon, c'est un bâtiment très petit. C'est pour ça la création du collège d'Ingres. Ouais. Et donc, déjà, c'est très, très petit sans les travaux. Donc, j'imagine que même sans les trucs de l'amiante, déjà, faire des travaux de rénovation dans un bâtiment qui est surpeuplé, et c'est infaisable. Donc, je ne connais pas. J'essaye d'intuire les raisons pour lesquelles...
Que faire en cas de défaillance de l'aspiration ? Il paraît qu'il va y avoir les Algéco dans la cour. Mais enfin, comme c'est l'opacité la plus complète, on ne sait pas comment ça va se passer. Et qu'il y aurait éventuellement des panneaux de fer.
Oui, mais c'est une grave opacité parce que tu parles comme la maman d'un futur élève. Moi, je suis la maman d'un actuel élève et j'ai été enseignante. Donc, on a reçu une information vague avec un plan de comment va se produire les travaux, disons la zone A, zone B. Donc, il te parle un peu des logistiques, des géographies, mais il te parle plus de ça.
Je ne sais pas. Et en cas de défiance d'aspiration.
Moi, je sens qu'il y a apparemment ma collègue, il m'a dit, mais il y a personne qui parle à un moment donné dans la salle des profs. Les personnels, c'est une espèce, il est en peur de quoi. Elle dit, ça fait 20 ans que j'ai travaillé dans l'établissement. Ça fait 20 ans que je suis exposée aux matériaux. Ça nous arrive de devoir balayer les toitures, les trucs pour la manutention, un peu de la maintenance, pardon, des salles. Et effectivement, après, c'est les conséquences, on la voit à long terme. Donc, comme preuve, peut-être, s'il aurait un informe, s'il aurait vraiment cette déclaration de la présence,
Donc, cette donnée est tirée d'un rapport de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires en 2016. Ressorti par l'association ADEVA, Association des victimes de l'amiante, pour alerter les pouvoirs publics. Ce document révèle que 85% des 63 000 établissements scolaires en France ont au moins un de leurs bâtiments dont la construction possède de l'amiante. Donc, calculez, ça se calcule vite. 85% des 63 000 établissements. Ouais. Donc, c'est un vrai problème sanitaire auquel il faut mettre fin. Évidemment, les lobbies, pendant des années, ont continué à construire des saloperies de bâtiments qui étaient cancérigènes et des bombes à retardement. OK, on l'enlève, mais pas à n'importe quelle condition et n'importe comment, en présence des élèves. Le problème est là.
Tu m'as parlé, Caroline, il est à la CPM.
Oui, alors la CPM, donc la Sécurité sociale, ça j'ai su ça comme par hasard par une de mes consultantes, qui va désamianter. Mais évidemment, ils ne le font pas en présence de leurs équipes. Évidemment.
Dans ces conditions, il faut commencer déjà par sensibiliser les parents des élèves, essayer de constituer une association qui peut se constituer partie civile, qui peut décider d'engager une action, voire de saisir un médiateur pour empêcher le commencement de ces travaux en présence des élèves, et peut-être aussi de trouver des solutions, comme tu dis, de placer les élèves ailleurs pendant les travaux. On n'en est pas encore au stade du contentieux, on peut encore trouver des solutions.
Et on essaye. J'ai l'impression d'être un peu seul de pédaler dans la semoule, mais j'y crois. Réglementation 97, interdiction de l'amiante. Il est interdit d'employer à ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans sur un chantier. C'est écrit, évidemment.
On va distribuer des flyers.
Si on prend l'exemple de l'eau, donc ce qui a très bien marché, c'est... on a déjà dépassé ce stade-là, c'est la découverte fortuite donc, du problème. Ensuite, effectivement, c'est donc les gens qui sont directement concernés, donc les parents, les enfants, les enseignants et les personnels
les
techniques. Qui travaillent dedans. Et puis ensuite, nous, ce qui a très bien marché pour l'eau, ça a été de mobiliser une dizaine d'élus qui ont fait donc des lettres ouvertes au préfet, qui ont été un peu publiées dans la presse, à droite, à gauche. Et ça, ils n'aiment pas du tout.
Ici, la presse, c'est la solution ultime.
Quand tu appelles le maire, on dit... Alors, attendez, j'appelle le maire. Oh. Ah non, il n'est pas au courant.
Ça, c'était il y a deux ans. Il ne faut pas aller voir le maire parce qu'il a prouvé par le dragage éclair qui a tué toute la biodiversité du lac. Je vous encourage à aller vous promener sur le lac d'Osgore. Il n'y a plus un oiseau.
Je vous invite à ne pas manger les huîtres non plus.
Alors, les huîtres, c'est un autre problème parce que les huîtres, c'est une pollution bactériologique. Donc, elle va, elle vient. Là, on parle de la pollution des sédiments. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Il faudrait que monsieur le préfet nous explique comment est-ce que les sédiments peuvent être de bonne qualité, alors que l'arrêté qu'il a pris et qu'il reconduit tous les ans, interdisant la consommation des coquillages fouisseurs, est toujours là. Voilà. Mais donc, il ne faut pas aller voir le maire de Cap-Breton, parce que de toute manière, ouais. il a prouvé à tout le monde qu'il n'en avait rien à faire de notre santé, puisqu'il a fait le dragage éclair et qu'il a été mettre du chrome et du nickel et des HAP et des PCB sur la plage du Santocha.
Donc, n'allez pas
au Santocha. Voilà. Et d'ailleurs, il nous avait promis que ce serait tout jaune au bout de 3 jours, mais c'est tout gris et ils sont tellement paniqués parce que c'est la preuve que c'est bien des sédiments et non pas du sable. Donc, il ne faut pas parler au maire, parce que de toute manière, le collège, ce n'est pas son problème.
Moi, j'ai appelé le député. Alors, par chance, Lionel Kos, j'ai envoyé des mails, n'est pas du même bord politique que le département. Donc, voilà, je relance. Et j'ai mis notre chère Lise Lucet. Alors, je me dis, ça va peut-être bouger un peu. Tu vois, la cache investigation, tout de suite, la télé, c'est...
Il faut trouver des... Et moi, je peux donner des noms. Je ne vais pas les donner maintenant, mais je peux trouver des noms d'élus qui sont élus aujourd'hui au conseil municipal de Cap-Breton, qui sont élus dans les villes autour et qui voudraient bien signer une lettre, donc signée par une dizaine d'élus.
Ça serait très intéressant.
Une lettre ouverte.
Ouais. Parce qu'il faut se mobiliser maintenant.
Et ça, il faut le commencer tout de suite.
En septembre.
Et oui, parce que la rentrée,
il faut commencer tout de suite.
Puis moi, je me sens un peu seule.
Il faut exiger que des mesures soient prises pour une rentrée saine pour les enfants et le personnel.
Mm-hmm. Il y a même mon maman qui m'a dit, c'est l'autre jour, et pourquoi ils n'utilisent pas les locaux du Lidl?
Mais qui les met au Lidl?
Mais c'est ça.
Qui est probablement amianté lui aussi.
Voilà. Bon, on va passer aux initiatives pour pouvoir mettre un peu plus de...
Un peu de musique?
Ouais. Allez. Donc, on y va. Je ne regrette rien, mais en version quand même.
Ouais, celle-là, on vous l'a déjà passée, mais en fait, elle se prête vraiment bien.
Voilà.
Elle se prête vraiment bien.
Thank you. gueule.
Oh, t'es mal à vache. Fais de ma mère.
Mais ta gueule avec ta vache, toi. Vas-y, viens.
Oh, attends, mais... la vache, là, elle était là, putain, la merde.
Mais c'est quoi, la vache? C'est quoi, ma mère, elle était là, la vache, putain, je l'ai... Arrête, tu crois pas, je te jure, j'ai la vache.
Atmosphère, 1, 2, 1, 2. Ça c'est chaud sur le plateau. En hop, tu disais c'est monstrueux.
Ouais. Ah oui, bah là on tombe, je veux dire, c'est de pire en pire.
Moi, c'est en plusieurs actes. Hein. Tout le monde s'est envoyé là-bas, et puis un jour on m'a dit mais mademoiselle, mais dans une administration, on ne fait pas n'importe quoi. Bah, j'ai dit justement, je suis administrée.
Ça se saurait. Si
et, j'ai le souvenir du sang contaminé, j'ai le souvenir de ci et du médiateur, un peu comme toi, j'avais la liste. Mais en fait, je suis hyper inquiète. Quoi. Permettez-moi d'être inquiète. Voilà.
Mais ouais, tu as raison.
Donc tu nous as donné un plan d'action. N'est-ce pas?
On va suivre.
Contacter l'ARS, inspection du travail, on était dessus, faire une lettre.
On profite aussi pour toutes les personnes qui ont envie de se renseigner, quand même, à travers le Facebook d'Atmosphère Atmosphère. Ils peuvent se mettre en contact avec nous et on essaiera de faire une petite campagne informative pour voir les gens qui sont intéressés. Parce qu'apparemment, on a les droits de se placer à la porte de collège avec une petite affiche et dire on va vous donner notre avis. Vous
pas de gilet jaune.
Surtout pas. Voilà. C'est quelle couleur l'amiante?
C'est blanc.
En tout cas, qui détient l'information détient le pouvoir. Donc c'est très important d'informer les gens. C'est pas juste.
Et notre administration et nos élus exercent un pouvoir. Ils en sont fiers. Ils jubilent. Qui est de cacher l'information. Ça a été dit en atelier à Max. Je ne donnerai pas de nom. Ça a été dit en atelier que s'ils divulguaient les informations, ils n'auraient plus leur pouvoir. Donc, ils exercent leur pouvoir comme ça. Administration, comme la plupart des élus.
Ça a toujours été comme ça.
Et c'est comme ça, comme tu dis, qu'Edoui Plenel se retrouve l'ancien directeur du Monde, inquiété là, Mediapart avec des centres des flics. C'est comme ça quand même que Julien Assange, tu sais, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est quand même ce journaliste international qui a mis en place une plateforme qui protégeait la protection des données, Wikileaks, où chacun pouvait partager des affaires dont ils étaient tenus au courant et que... Il est dans cette espèce de no man's land là. Enfin, il n'y est plus d'ailleurs à l'ambassade d'Équateur.
Il est en prison à Londres.
Maintenant, il est
à Pentonville. Okay. En attendant d'être jugé, voilà. Il sera déjà jugé pour une première chose qui est de ne pas s'être rendu à la convocation de la police anglaise. Mm-hmm. Donc ça, c'est un espèce d'outrage. Mm-hmm. Et donc, il sera jugé d'abord pour ça, mm-hmm. et ensuite, il sera jugé pour savoir s'ils vont l'extrader ou pas. Mm-hmm.
Ce qui est intéressant pour Edwy Plenel, c'est que ça intervient au moment où il s'interroge sur les questions de la vie de Benalla, sur ses activités. Je vous invite tous à aller voir le film qu'il a sorti sur le journal Mediapart, sur toute son histoire, sur son mode de fonctionnement. Et on comprend pourquoi une perquisition intervient, parce qu'ils détiennent des informations assez intéressantes, des techniques de recherche extrêmement approfondies. Et ça intervient justement à un moment où on sent que notre État se sent de plus en plus pris à la gorge, ce qui prouve que probablement il n'est pas si honnête que ça. Ou alors qu'il y a des informations à cacher que l'État n'a pas envie que l'on découvre.
Qu'est-ce que tu aimerais partager?
On avait ça dans Wikileaks.
Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous de ton chemin, de juriste à la médiation? Qu'est-ce qui est important pour toi de ce qui se passe en ce moment, d'un projet sur lequel tu es?
Alors, il y a peut-être deux choses qui me paraissent vraiment importantes pour les années à venir, puisqu'on voit que la justice est en train de perdre de plus en plus en efficacité. Par exemple, dans le domaine du droit civil, on voit que les pensions alimentaires vont être décidées par la CAF, qui sera à la fois jugée partie. On voit maintenant que c'est un notaire qui va décider des divorces. Mmh. Donc, la formation juridique n'a plus tellement d'intérêt. Je crois que là encore, c'est aux citoyens de reprendre le pouvoir. Mmh. Et pour moi, c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi la médiation. Parce que
on a un problème de micro,
ça va. C'est, ça permet aux citoyens de reprendre aussi son histoire en main, de ne pas la concéder forcément à un juge et de décider de son avenir. C'est aussi une façon d'apaiser ses propres conflits, donc de reprendre ses pleins pouvoirs. Et là, je parle à une psychologue. Ça permet aussi, en tout cas pour un praticien comme moi, de ne pas rester encadré par, ou limité par le texte de loi, mais de faire appel à plusieurs techniques, communication non violente, psychologie, être à l'écoute des parties. Ça permet de vider totalement un conflit. Parce qu'on voit par exemple que dans un divorce, reste après un contentieux de l'après-divorce. Souvent, les parties ne sont pas satisfaites de la solution. Elles n'ont pas apuré complètement leur contentieux. Il reste des griefs et on se dispute. On se dispute pour les enfants, on se dispute pour la pension. Donc ça continue, ça continue, ça continue. Alors que lorsqu'une médiation a eu lieu, je crois que tout a été dit. Et là, on peut se dire que c'est terminé. C'est aussi beaucoup moins cher pour les parties. Alors je sais que mes confrères ne seront pas heureux d'entendre ça parce que la médiation va peut-être enlever du contentieux. Mais pour moi, c'est la justice de demain.
Génial. Et qu'est-ce que tu penses de cette loi qui a pour but de réduire la justice de proximité? Enfin, tu vois tout ce qui s'est passé.
La justice de proximité, elle est compliquée aujourd'hui, la situation de la justice. On voit aussi que ce qui a été réduit, c'est l'aide juridictionnelle pour les parties qui n'ont pas trop de revenus. Donc, c'est encore l'occasion, dis la médiation, de reprendre sa vie en main et de s'affranchir de tous ces acteurs judiciaires qui... Les juges qui sont dépassés par le nombre de dossiers, les avocats aussi qui sont pris par le temps, qui sont obligés de demander des honoraires pour aussi payer leurs charges. C'est une façon, enfin, je crois que la médiation, c'est vraiment un des modes les plus innovants aujourd'hui pour déjà sortir de la violence. Mais alors, là encore, on n'est pas en France dans un pays de la non-violence. On n'est pas habitué à cette culture-là. Mais pour moi, c'est ça, la justice du XXe siècle, c'est le défi de la non-violence et permettre un processus innovant permettant aux parties de reprendre le pouvoir sur leur propre vie et sur leurs conflits.
Merci.
Alors, si je terminerai quand même sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai fait la médiation interculturelle, très vite fait. Moi, je suis très inquiète de la montée de l'extrême droite. On est en train de se refermer, de se replier. Moi, je travaille avec des populations d'Afrique et qui m'apportent énormément. J'apprends énormément dans la musique, dans le droit de la famille. Je m'enrichis au contact de ces populations avec qui je travaille. Je crois que la médiation interculturelle, là aussi, c'est l'avenir. C'est de permettre aux gens de se rencontrer, d'établir un lien de sociabilité entre des cultures extrêmement différentes. On voit, par exemple, dans les Landes, ce week-end, il y a eu le festival Tempo du Monde. On a eu des jeunes migrants qui sont venus nous présenter des artistes de leur pays. Ça a été une rencontre incroyable. Les Landais, les Africains, ça a bien matché. Voilà, c'est l'idée aussi de se dire que peut-être la migration, c'est une source d'enrichissement. Alors, je sais bien que mon discours est à contre-courant, mais pour moi aussi, c'est un défi du 21e siècle. Ce serait ça, ce serait la non-violence et l'ouverture.
De toute façon, c'est l'heure inévitable des migrations, des migrations climatiques.
On est à l'aube du changement, il est temps de changer.
Économique, donc de toute façon, l'humanité...
On n'a pas le choix, le système s'effondre. Donc, ouvrons-nous. Voilà.
Merci. Pierre.
Manière de conclusion. Alors, je voudrais juste rebondir sur deux choses avant de faire une petite conclusion. La première, c'est donc sur l'extrême droite. Oui, malheureusement, mais en même temps, j'ai jamais eu peur des bruits de bottes. Ce qui m'a toujours fait très peur, c'est le silence des Charentaises. Autrement dit, l'extrême droite, c'est une petite minorité. Si elle passe, c'est que l'immense majorité ne fait rien. Donc, bruit de bottes, ça ne me dérange pas, parce que c'est jamais ça le problème. C'est le silence des Charentaises, c'est-à-dire les gens qui ne font rien. Deuxième chose, quand on parle de proximité en justice, il faut faire très attention. Il y a la notion de géographie, c'est-à-dire est-ce que j'ai un tribunal près de chez moi ? Et là, gros mensonge de l'État qui dit qu'il ne va supprimer aucun tribunal, sauf qu'il va regrouper les fonctions dans certains tribunaux. Donc, par exemple, à Dax, il n'y aura peut-être plus que les affaires familiales. Ça veut dire que, pour certaines personnes, il faudra qu'elles fassent 80 km pour y aller. Et la deuxième notion, c'est le tribunal de proximité qui, lui, a existé. Et là, je voulais juste utiliser ça parce que c'était une catastrophe, ce truc-là. D'ailleurs, c'est en partie remplacé par la médiation maintenant. On a dit, oh là là, les pauvres et tout, ils ont des petites affaires, donc ils ont des trucs qui ne coûtent pas cher, donc il leur faut une justice de proximité. Donc, on a créé le tribunal de proximité. Et donc, on pouvait y aller sans avocat. On remplissait un formulaire, on était convoqué, voilà. Sauf que, comme les juges, comme disait Anna, sont surchargés et que surtout, ils ne connaissent pas tout, beaucoup de jugements étaient d'extrêmement mauvaise qualité. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que, et c'est quand même extraordinaire, dans un pays dit démocratique, il n'y avait pas d'appel. Pas d'appel au tribunal de proximité. Donc si le juge était bourré ce jour-là et qu'il faisait un jugement débile, et moi j'en ai vu, avec des fautes vraiment matérielles, il n'y a pas d'appel. Le seul appel, c'était la cassation, 4000 euros minimum pour un dossier avec un avocat. Donc là, c'est un truc extraordinaire où l'institution a créé une juridiction accessible aux plus modestes.
Sans voie de recours.
Oui.
Autre que la Cour de cassation.
Autre que la Cour de cassation. C'est quand même extraordinaire qu'en France, il y ait eu une juridiction sans appel. C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà. Et sans ça, je voulais juste aussi dire deux petites anecdotes que j'avais préparées. La première, c'est qu'en regardant un petit peu comment la justice est rendue aujourd'hui, je me suis rappelé le mot, je crois que c'était de Sanguinetti, M. Sanguinetti, que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et nos juges aujourd'hui la rendent comme des glands. Donc c'est juste une petite blague. Et la deuxième, c'était une anecdote ou plutôt une réplique tirée d'un film La Grande Bouffe que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas mais que je les encourage à regarder en cachette de leurs parents. Où la prostituée Andrea Ferréol est sur les genoux de Philippe Noiret, le juge. Et elle découvre qu'il est juge. Et donc elle lui dit « Ah, mais donc tu rends la justice ?» Et là, il y a un long silence de Philippe Noiret qui finit par répondre « Non, je dis le droit. » Et c'est très différent.
Peut-on imaginer un monde sans argent, à minima une monnaie locale qui me semble être un levier quand même, en quelques minutes, puisque tu es là jusqu'à nous, pas courir derrière le temps. J'aimerais au moins avoir ton avis là-dessus.
Alors, la monnaie locale, on en a beaucoup parlé avec Maurice Barraguet. Le problème de la monnaie locale, enfin, pardon, il faut que je vous apprenne à être positif. Les aspects positifs de la monnaie locale, il y en a deux. Il y en a deux. Et donc, pour ça, c'est extraordinaire. Le premier, c'est un aspect pédagogique. C'est-à-dire que ça oblige les gens à réfléchir à la monnaie. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Donc ça, tout ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est fabuleux. Parce que peut-être que certaines personnes vont faire comme moi et Maurice, après dévider la pelote et aller plus loin. Donc l'aspect pédagogique, pour moi, il est fabuleux. Le deuxième aspect très, très intéressant, c'est que par définition, une monnaie locale, elle est locale. Autrement dit, ça ne sert à rien de mettre des ESCO dans un coffre à Paris. Ça ne peut pas être dépensé à Paris. Donc, ça accélère l'économie locale. Donc ça, c'est un deuxième très, 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 très bon point. Par contre, l'aspect extrêmement négatif, tous les gens que j'ai rencontrés qui gravitent autour de l'ESCO pensent que c'est une nouvelle monnaie.
C'est une monnaie donc basque, la plus grande monnaie complémentaire en France, qui a million d'euros, quoi, qui tourne à 1 million d'euros. Ouais.
Le problème, c'est que ce n'est que du change. C'est-à-dire qu'un ESCO égale 1 euro.
Oui, et mais ce n'est pas du change qui, tout d'un coup... Mettons, moi, si je n'y vais pas, parce que je ne suis pas copine avec lui ni les Intermarchés, chez Leclerc, donc je donne 1 euro. Mais mes 1 euro vont repartir vers des banques, ils vont repartir vers des paradis fiscaux.
C'est ce que j'ai dit.
Pour acheter ma bouteille de lait.
Alors l'ESCO, il reste sur place.
Si je vais avec mon pignon, puisqu'on travaille activement, en ce moment, c'est en suspens, une monnaie locale landaise, ce serait quand même pas mal que les gens se bougent.
C'est ce que j'ai dit, c'est l'accélération.
Sort des Charentaises, au moins mes 1 euro, ils sont changés, d'accord. C'est 1 euro au départ, de banques privées, créées sur des lignes de crédit en appuyant sur un bouton, certes. Mais une fois que mes 1 euro sont changés, ils ne vont pas repartir pour aller alimenter à nouveau des paradis fiscaux.
C'est ce que j'ai dit, c'est les deux aspects. Le premier pédagogique, le deuxième, c'est l'accélération de l'économie. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Mais les gens qui produisent de l'ESCO sont un énorme désavantage par rapport aux banques. C'est qu'une banque, alors ça, on ne l'a pas dit plus tôt, mais la SocGen ou BNP Paribas, quand ils prêtent 1 euro, ils n'ont besoin que d'avoir 1 centime de réserve à la Banque Centrale Européenne. 1 centime. Au moins, aux États-Unis, c'est 10 centimes pour 1 dollar. Donc, ils sont un peu moins fous aux États-Unis. Par contre, l'association qui produit de l'ESCO, la loi lui impose de donner 1 euro pour avoir un ESCO. Donc, ils ne pourront jamais gagner. D'un côté, ils ont zéro et ils fabriquent un euro. De l'autre, il faut un euro pour avoir un OSCO.
Ah, mais ils gagnent en éthique, en fait. C'est un monde nouveau.
Ça, on est d'accord.
On est d'accord. Moi, je trouve ça plutôt un bon levier. Et un monde sans argent.
Alors, j'en suis pas encore là, puisque je viens de découvrir la création monétaire et surtout tous les travers qu'elle engendre. Donc, j'ai pas encore réfléchi. C'est probablement. Alors, Maurice a déjà beaucoup réfléchi. Donc, il faudra inviter Maurice une prochaine
fois. Qu'est-ce qu'il en pense, Maurice?
Il a beaucoup réfléchi à ça.
Ton acolyte.
Mon acolyte, oui. Il est en avance sur moi, là, sur ce sujet-là.
Le retour du troc, alors ?
Les deux, tout n'est pas exclusif. Nous, on nous a vendu cette espèce de légende. On a commencé, on se jetait des cailloux. On s'est organisé quand on a été un peu plus évolué avec le troc. Ensuite, on a inventé la monnaie. Et puis après, est venue la dette. Donc, mais en fait, ça, c'est, alors d'abord, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu la dette qui a été créée en premier. Mais ceci peut cohabiter. On peut très bien imaginer des systèmes où plein de choses cohabitent. Avec des SEL, avec le SCO, avec, où on peut faire mélanger
système
du troc.
Système d'échange libre ou voilà,
locaux,
on
ouais,
troc,
libre, ouais.
Voilà, locaux.
Ouais.
On troque un cours d'anglais contre
une coiffure,
de tronçonneuse. Enfin bref, c'est top.
Oui, mais on continue à payer nos impôts et à gagner notre salaire. Quand tu travailles pour des boîtes, tu continues quand même à rentrer dans la monnaie.
Alors, il faut savoir, oui, bien sûr. Mais il faut savoir que pour les SEL, par exemple, il y a déjà une universitaire qui a fait une thèse à la demande plus ou moins de l'État pour, entre guillemets, arrêter ça. Quoi. Parce que si ça se développe, l'État est en péril. Là.
C'est ça.
Péril dans la demeure.
Ah. Ouais. Bon, on parle de citoyenneté, donc on va parler des initiatives locales, si tu es d'accord. On peut toujours rebondir à continuer notre dialogue. J'aime bien que tu es bien branché sur la conversation. C'est très bien. Donc, petit rafale.
Ding, ding, ding,
tan, 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 tan.
Alors, on n'est pas heureux tous les deux ?
Non.
T'en es sûr ?
Oui.
T'aimes pas notre vie ?
Tu l'aimes, toi, notre vie ?
Faut bien, je m'y suis habituée. Alors.
Hello. Hello, rebonjour. Toujours atmosphère. Ce qui est légal est-il légitime ? Ben, je ne sais pas, pas toujours. Hein. On a eu Didier Toussis du collectif Nous Tous qui est quand même très engagé sur de nombreuses décisions politiques qui touchent au littoral, voilà, la préservation du littoral. Et il a monté, avec plusieurs membres de l'association Ladala, un lieu alternatif qui est vers Bénès. Voilà. Donc c'est un lieu où on peut tous se retrouver et commencer à rêver de ce nouveau monde, et, pouvoir s'approprier un petit lopin de terre, s'y retrouver, s'y rencontrer. Et donc il propose en fait pour adhérer à ce lieu de planter un arbre comme un acte de résistance. Voilà, on va vous envoyer le lien vers ce lieu dont on avait déjà parlé et puis la possibilité donc sur Elo Asso de financer pour planter un arbre, ou alors il y a la possibilité d'être dans le crowdfunding, c'est-à-dire de faire un don libre pour tout ce qui concerne plutôt les frais de fonctionnement et les frais annexes liés au verger. Bail, clôture, terreau, matériel, irrigation, outils. Voilà.
Ouais, parce qu'en parlant des initiatives, on parlait tout à l'heure de comment on envisage les paysages financiers dans le monde de demain. Et là, précisément, en parlant des Didier, l'association là pour planter les arbres, etc., on se rend compte qu'il y a de plus en plus de plateformes et de crowdfunding. Donc, ça marche de mieux en mieux et c'est de plus en plus populaire. Donc, les financements participatifs, tu me corriges si je me trompe, Pierre, au crowdfunding, parce que ça vient du mot anglais crowd, qui c'est la population, la foule, la masse, est un mode de financement faisant appel au grand public, dont c'est des particuliers ou des personnes morales qui apportent des petits montants pour contribuer à la réalisation d'un projet. Donc c'est le nombre de personnes contributrices qui fait la différence. Donc c'est la somme des petits montants qui vont arriver à mobiliser un montant élevé. Donc du coup, il faut aussi qu'on soit responsable. Je me dis, dans quel type de ville j'aimerais vivre ? Dans quel type d'action ? Bah, finalement, c'est des actions commerciales. S'il y a quelqu'un qui va monter une petite entreprise, effectivement, des fruits et légumes bio, qui va planter, il a besoin d'argent pour commencer un investissement. On a des grands créateurs décidés, mais on a besoin toujours de cet investissement. Et des fois, la mairie, les institutions, les banques, ils nous font plus confiance. Donc, du coup, c'est là, oui, la banque, elle a le pouvoir de pousser un bouton et faire apparaître les 100 000 euros, mais que si la banque te fait confiance, que tu vas les rendre. Donc,
riche, hein.
Voilà. Pourquoi pas, peut-être, se dire, OK, je ne peux pas contribuer avec un grand montant, mais je kifferais, par exemple, si il y a, je ne sais pas, une salle de concert ici, dans la ville, donc, il y a quelqu'un qui a l'idée, mais logiquement, c'est un gros budget. Mais si tout le monde, il essaye, il réussit de convaincre les gens, donc on place, bon, j'ai 50 euros, j'ai 200 euros, j'ai 5 euros, et tous ces petits montants, à la fin, ils vont faire possible, créer, parce qu'à la fin, on est les consommateurs de cette société. Donc, c'est génial qu'il y a des initiatives qui se passent autour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a de plus en plus de plateformes de crowdfunding. Il y a, par exemple, certains qui sont assez écolos, comme par exemple, il y a les CEST, SPIR, Milan Impact. Ils travaillent surtout sur des projets centrés dans les sociales, l'économie solidaire et l'écologie. Et par exemple, sur Tudigo, il y a quelqu'un d'à côté qui fait des planches de surf, qui a le souhait de faire des planches de surf plus écolo, qui durent plus longtemps, qui s'appelle Gaia Sorensenios. Et tout te surprend. Tu peux aussi te promener sur les différentes plateformes en tant que client, en tant que consommateur, disons, et regarder s'il y a des projets sur lesquels tu kiffes et tu te dis mais j'aimerais bien voir la lumière, que ces projets arrivent, dont je fais partie, je contribue. Donc on peut devenir donateur et on peut aussi, pourquoi pas, se dire mais j'ai une super grande idée et je vais aussi voir si les gens adhèrent. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, des crowdfunding, Pierre?
Le crowdfunding, ça existe depuis maintenant quelques années. Moi, j'ai participé à quelques investissements par des plateformes de crowdfunding. Mais je voulais juste rebondir sur un truc et sur l'utilité de ces plateformes dans un cas particulier qui est l'installation de jeunes agriculteurs bio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs bio qui font faillite parce que les aides promises par l'État n'ont pas été payées.
C'est ça.
Et ça, ouais. C'est exprès. Et la deuxième chose, je ne donnerai pas de nom, mais c'est facile à retrouver. J'ai passé une demi-journée avec un jeune agriculteur qui vient de s'installer en bio dans notre belle région. Et il m'a raconté le parcours du combattant, un véritable parcours du combattant, avec la chambre d'agriculture. Où, en gros, il y a une personne qui s'occupe du bio, mais personne ne sait où elle est. Et donc, la chambre d'agriculture dans les Landes fait tout ce qu'elle peut pour empêcher les agriculteurs bio de s'installer. Il faut le savoir, ça. Il faut savoir qu'un de ses vice-présidents, ou qu'il l'a été pendant très longtemps, était aussi un vice-président, voire un président de Maïs Adour, lequel vend beaucoup de produits phytosanitaires ou dits phytosanitaires. Donc là, c'est un exemple parfait où ben, ces agriculteurs, il faut savoir que pour qu'une terre obtienne d'une certaine manière un label bio, il faut qu'elle n'ait pas eu de produits dégueulasses pendant au moins 3 ans. Donc là, il y a une période pendant laquelle l'agriculteur a besoin de financement. Et si ce n'est pas donné par l'État et ce n'est pas donné par la chambre d'agriculture et pas donné par les mairies et pas donné par Max, le crowdfunding peut être une solution.
Ouais, et puis c'est vraiment... On avait eu Olivier Larègue de l'école de philo à NABAP qui s'appelle Elena, maintenant qui a Biarritz. Voilà. C'est vraiment typique de cette ère où l'humanité a rendez-vous avec elle-même, l'ère du Verseau, où tout d'un coup, un inconnu porte un projet qui nous semble tout à fait cohérent, logique et même novateur et qui permet d'aller vers le monde nouveau. Ok, j'y vais, je finance. Ça, c'est tout à fait nouveau de pouvoir financer. C'est génial.
Juste pour répondre sur ça, Caroline, dans les sociétés traditionnelles africaines, on utilise la tontine.
Mais oui, je pense à ça. Voilà. Les Chinois fonctionnent très bien parce qu'ils s'aident comme ça, tout à fait.
Voilà, dans les systèmes, des sociétés dans lesquelles l'État n'existe pas, la solidarité n'existe pas pour la sécurité sociale, on fait de la tontine. Ouais. Encore un exemple que ces sociétés traditionnelles ont beaucoup à nous enseigner pour nous sortir de ce système étatique qui nous étouffe parfois. Alors qu'il n'est plus un État-providence.
On est une famille de 10 et chaque année,
de 10.
On va donner...
On crée un petit pot d'assurance, en fait. On crée un petit pot d'assurance sur lequel chacun va pouvoir tomber.
Chaque année.
Oui, mais voyons, parce qu'on paye des taxes à la mairie, par exemple, les taxes foncières, qui sont de l'argent énorme, qui est versé pour... On ne sait pas quoi.
Si, pour un nouveau siège de Max, 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour faire le nouveau siège de Max.
C'est délirant.
un montant beaucoup plus petit. Le pavillon que tout le monde voit quand on rentre à Cap-Breton, qui se trouve en face du sitcom, le pavillon Infotourisme, qui a coûté 200 000 euros, inauguré en grande pompe par M. Kerrouche avec tout le gratin du
la
département.
La mairie d'Osgore, 800 millions d'euros.
Et personne ne nous a demandé, on n'a pas contribué au projet concret. Dans les crowdfunding, c'est une façon aussi de contribuer au projet concret de ça qu'on veut créer. Donc, c'est plus transparent d'un côté.
Et pour revenir au bio, ce que tu disais tout à l'heure, donc, c'est de plus en plus connu. Les agriculteurs ne touchent pas les subsides qui leur sont promis. Oui. Et pour le savoir aussi, en Europe, la politique agricole commune, c'est 60 milliards d'euros par an. Et c'est la PAC. Et en fait, ça ne va pas vers l'agriculture bio.
Pas du tout. Au contraire.
Elle continue à privilégier cette PAC. Là, un modèle insoutenable, quoi. Disparition d'un tiers des fermes en 10 ans, destruction de l'environnement. 25% des paysans en France qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Et la France, c'est pourtant le premier bénéficiaire en Europe de la PAC, avec 9 milliards d'euros par an.
Et le plus gros consommateur de pesticides en Europe.
Voilà. Bim, bim, bim. Un mauvais point. On continue avec des bonnes nouvelles. Alors, en initiative locale, j'avais un truc très sympa, justement. Là où, quand et comment, mais les citoyens reprennent leur propre pouvoir. Énergie citoyenne Sudland, c'est une initiative portée par un groupe de citoyens dans le sud des Landes et soutenue par la AMAX. L'objectif, c'est d'investir collectivement pour produire de l'énergie renouvelable sur le territoire et s'associer au sein d'une structure citoyenne. Un projet qui serait vertueux et durable, dont les bénéfices se répercutent directement à l'échelle locale. Investissement, retombées économiques, gouvernance partagée, démocratique. Voilà. Le projet s'est lancé suite à la projection du film Après-demain en décembre 2018 au cinéma de Souston. Depuis, une trentaine de citoyens se sont rassemblés pour lancer une réflexion sur les énergies renouvelables. Ils ont reçu une formation sur les aspects techniques du projet avec l'aide de l'association Sirena, qui est une association qui promeut l'énergie citoyenne sur le territoire régional. Bon, c'est en demi-teinte, hein, évidemment. Moi qui fais des ciné-débats, donc auquel tu es intervenu, de façon vaillante la dernière fois sur les bulles financières. On a diffusé donc un film sur les énergies renouvelables. C'est toujours un cycle en fait qu'on fait. On a eu la chance d'accéder à une dizaine de films. Et donc le précédent était sur l'autonomie énergétique. Donc la AMAX est venue. Et en fait, il est vrai que ça permettrait uniquement à ERDF d'accéder à des surfaces de toit pour pouvoir avoir du solaire. Donc, il n'y a rien, en fait, de cet ordre-là. Je me permets parce que je suis désolée, Elise. Tout à l'heure, elle m'a dit, il faut en parler, on en parle dans le journal. Donc oui, c'est une initiative citoyenne, mais ce n'est pas vraiment celle qui est une initiative citoyenne. Il faut savoir que dans le nord du pays landais, dans le sud, il y a deux boîtes, ça m'échappe, mais ça va me revenir, qui, elles, sont sous le système de coopératives où les énergies sont renouvelables et appartiennent à 1% ou 0,1%. Et donc, c'est Enercop et Energia. Voilà, les noms des boîtes me reviennent. Et dans ce cadre-là...
J'achète mon électricité à Enercop.
Voilà. Dans ce cadre-là, c'est vraiment, même si c'est à base de 0,01%, une énergie déjà qui est totalement là, 100% renouvelable, et qui appartient aux personnes qui investissent dedans. Donc, ça fonctionne en coopérative. C'est mieux. On est d'accord. Ding, ding, ding. Tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir, hein, c'est ce qu'on voit. Ma vie, une autre initiative locale?
Mais non, je n'ai pas des initiatives locales. Okay. Voilà, j'ai de l'agenda par contre. Ça se mélange des fois les initiatives et les événements. Parce que les initiatives, ils sont besoin des bénévoles pour se faire connaître. On a déjà eu ici, quand on a eu l'émission sur les tiers-lieux, l'espace de coworking ici en Grèce, qui s'appelle Container. Donc du coup, ils sont assez discrets, ils restent là, voilà, mais de temps en temps, ils font du bruit. Et c'est ça que c'est leur festival qui s'appelle Make Noise Fest, c'est la deuxième édition. Et du coup, ça va être le samedi 8 juin, donc c'est pas samedi prochain, voilà, après les ponts de l'Ascension, l'autre. Voilà, donc il y aura des concerts, des performances, des ateliers do it yourself. Et voilà, food and drink. Donc, voilà. Et ça, c'est container, c'est bien pour, parce qu'on parle de nouveaux paradigmes de collaboration, de coworking. Et on s'est dit, c'est les citoyens. C'est vrai qu'ils restent là quand il devrait y avoir une présence. On parlait de pourquoi ce type d'endroit ne se place pas, par exemple, au centre-ville. Et les centres-villes, moi, je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de dire ça encore une fois. Parce que je suis allée en réunion de la mairie d'en Grèce il y a 2 ans. Où les maires d'en Grèce nous présentaient dans un discours, mais vraiment excellent. Vraiment, on dirait qu'il avait même un coach. Mais vraiment. Il disait, mais je ne veux pas qu'en Grèce devienne en ville dortoir. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va construire un supérieur et une machine de retraite d'espèces avec une station d'essence. Donc du coup, j'ai trouvé que toute la citoyenneté d'en Grèce, on voit un peu la salle municipale, on voit la déco, on imagine un peu les scènes un peu kitsch quand même pour mon goût. Mais bon, tout le monde, elle était vraiment dans l'euphorie. Ouais, on ne veut pas non plus qu'en Grèce devienne une ville dortoir. C'est vrai, voilà, on a capté, mais c'était la phrase à dire. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais quand même lui écrire un mail à ce monsieur, lui disant, et j'ai pris mon effort parce qu'en tant qu'espagnol, des fois pour moi, écrire c'est quand même complexe. Donc je commence à écrire mon mail lui félicitant pour cette espèce de phrase de dire je ne veux pas que nos villages deviennent des villes dortoirs, et c'est vrai, on ne veut personne. Mais je me demandais pourquoi, si en Grèce, comme d'autres villes par ici, ils sont vraiment quand même en centre-ville. Donc pourquoi il y a cet investissement dans une espèce de supermarché qui fait partie d'une chaîne qui est en dehors de la ville, de la circulation. Si on a une mairie, on a une école, on a un bâtiment de salle municipale, pourquoi ne pas investir dans des petits commerces, un petit marché, hein, quelque chose. Le tiers-lieu conteneur, il est dans la zone artisanale, dans la campagne, en dehors de tout. Et pourtant, c'est l'unique activité culturelle à côté des brocanteurs d'en Grèce qui se met là. Donc vraiment, c'est ma question. Pourquoi les gens ne réagissent pas et disent « Nous, on veut un petit village avec de la vie au centre, au cœur ».
Alors, les maires leur disent dans ces cas-là, encore une fois, homme ou femme, les maires leur disent dans ces cas-là qu'une commune n'a pas le droit de subventionner un petit commerce, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque les communes et surtout les communautés de communes et les départements subventionnent de manière indirecte, de manière très importante, les grandes surfaces comme les Leclerc, les Auchan, mm-hmm. et tous ces gens-là, qui font tout simplement un chantage à l'emploi. Ils font un chantage à l'emploi. Et là, j'ai une très mauvaise nouvelle. Donc, désolé, parce qu'on approche de la fin. Donc, finir par une mauvaise nouvelle, ce n'est pas bon. Mais j'ai vécu 15 ans à Londres. J'ai vu les premières caisses automatiques dans les supermarchés londoniens. Et au début, c'était quand vous avez quelques articles, c'est pour aller plus vite. Donc, c'était pour vous aider. Mmh. Et puis, 3 ans après, 4 ans après, il y avait moitié-moitié. Moitié de caisses avec des caissières et moitié de caisses automatiques. Et 3 ans après, il n'y avait plus une seule caisse avec caissier ou caissière. Il n'y avait que des caisses automatiques. Mmh. Donc en plus, tous nos maires qui n'ont aucune vision à moyen terme et même à court terme, qui soi-disant se laissent bercer par ce chantage à l'emploi, et donc subventionnent très largement, directement ou indirectement, ces grandes surfaces, vont se retrouver avec des chômeurs en plus. Mmh. Et donc des activités à l'extérieur de la ville. Et donc de fait, une ville dortoir.
C'est ça, à la fin. Plus dortoir que jamais.
Ma vie en bonne espagnole, elle avait proposé une petite place où on pouvait boire des bières et faire jouer les enfants. Quoi.
À partir de 22h le soir et puis manger des rationnesses ou des tapas.
Je me suis dit, les petits bâtiments des salles municipales qu'il y a sur la route en Grèce, pourquoi les transformer en marché, soir, bar à tapas, petit commerçant, mercerie, un papeterie. Il y a déjà l'épicier, les bouchers, Mais non. Donc du coup, on s'est dit, les politiciens... Des fois, je pense à l'illustration quand on disait « tout pour le peuple, mais sans le peuple ». Mais au moins, il avait tout pour le peuble. Mais là, maintenant, c'est quoi « tout pour moi » et on te fait semblant qu'on compte sur toi.
Mais les gens ne sont pas très concernés. Moi, je l'ai vu autour de moi, mes chers amis et proches. Ah. Tu vois, les jeunes. Ah bon,
je donne un petit exemple.
C'est l'européenne. Ah bon, c'est l'amiante. Ah bon, c'est le descente sablement du lac. Ah
mais
bon.
On a réussi à aller le botomiser au collège.
De relativité intellectuelle où tout se vaut, où finalement, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est ce que j'observe.
J'aimerais bien répondre sur ça, parce que tout à l'heure, vous avez dit... qu'on a le droit au silence. Mais il y a aussi des silences qui sont coupables. Moi, je suis persuadée que ce qui se passe en ce moment pour les migrants, toute cette frange de la population qui nous dit non, on ne veut pas qu'ils viennent sur le territoire, un jour, ce sera un crime contre l'humanité. Ouais. Ce sera jugé comme ça. Mmh. Et je crois aussi que ceux qui nous disent non, mais moi, je l'ai entendu hier, non, mais moi, je ne vote pas, le Parlement... Ça, c'est, il n'a aucun pouvoir. Oui, mais il y a des silences qui sont complices aussi. Mais
tout à fait.
Donc, c'est pas la peine d'aller se plaindre après. Je sais, mais on a aussi une responsabilité. Voilà. On a des droits, on a aussi des obligations.
Si
et on a aussi
c'est un droit ou un devoir, je me suis demandé hier. Et moi, j'étais hyper fière de prendre ma voiture, de dire à mes enfants, bah, écoute, au moins, moi, j'ai exprimé mon... Ouais. J'ai dit, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui s'entretuent pour avoir le droit.
En dehors même du droit, on a aussi un devoir. Et une responsabilité morale aussi, de se dire, ah, mais l'extrême droite au pouvoir... Moi, je vote pas.
Ouais.
Je vote pas, mais quand on va, quand tu pourras plus parler, quand tu pourras plus t'exprimer, quand tu écouteras que de la musique française, ça sera un peu tard. Tu auras été complice de ce qui s'est passé. Moi, je veux pas faire de procès d'intention, hein, mais il y a une forme de lâcheté et de lâcheté. Désintéressement.
De paresse, de paresse.
Oui, mais après, c'est pas la peine d'aller critiquer l'État et si on n'est pas en mesure de reprendre ses propres.
Quel droit de vote ? S'il n'y a pas le vote blanc, il n'y a pas de vrai droit de vote. Ouais, puisqu'en gros, c'est Mitterrand qui a inventé le Front National, même si Le Pen existait avant. Comme épouvantail, pour continuer à se faire élire, ça a été refait après par tous les autres, qui donc ne nous donnent pas le choix, nous vendent, excusez-moi, de la merde, et nous disent tous les 6 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, ça dépend des élections, « Ah, il faut voter pour moi, sans ça, vous avez le Front National ». Donc tant qu'on n'a pas le vote blanc, je suis désolé, on n'a pas un vrai vote, puisqu'on n'a pas le choix.
Sur 35 listes, on avait quand même des choix.
Bon, pour les Européens, on a le choix quand même.
Il y a 50% de gens qui n'ont pas voté. Hein.
Et pourquoi? Ben oui.
Ben pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces propositions.
Je crois qu'il y a une espèce de paresse que tu observes à l'œuvre beaucoup, partout. Tout le
temps. N'existait pas en France, les votes blancs.
Non, c'est pas pris
justement.
En compte.
Mais ça n'existe que dans deux pays au monde.
Mais
non, mais si, ça existe, mais ce n'est pas pris en compte. Si tu veux, si tout d'un coup, il y a 45% de gens qui votent blanc, qui c'est la majorité, on ne va pas dire on refait des élections.
Ben si, il faudrait.
Ben oui, mais ce n'est pas comptabilisé comme ça. Donc ça existe, mais ça n'existe pas. En attendant... Agenda. J'aurai toujours la possibilité le week-end qui vient de vivre un week-end nature, pas comme les autres. Depuis la sortie du film L'Esprit des Plantes de Jacques Mitch, livre, film et émission sur l'intelligence et les bienfaits du végétal fleurissent partout. Les dernières découvertes des scientifiques bousculant notre compréhension de ce monde très connu sont abordées dans ce film. Et l'association culturelle labennaise Cocon Solidaire propose donc d'aller à la découverte et offre au public une première édition sur le thème intelligente nature, ces mystérieuses fleurs et plantes sauvages. Donc samedi 1er juin à 19h, ce sera à la salle des fêtes. Voilà, il y a l'inauguration.
À la benne.
Ouais, c'est ça, à la benne. À 21h, il y aura une conférence passionnante, tout public, avec Jean-Jacques Labat, qui est le plus grand spécialiste au monde des plantes carnivores. Oui, qui présentera l'histoire incroyable des plantes carnivores, des dinosaures à nos jours. Et dimanche, donc à la salle des fêtes de 10 à 19h, il y aura des rencontres et animations avec des professionnels passionnés de la nature. Et puis pour clore donc cette journée, c'est donc à 21h, il y aura ce fameux film sur l'esprit des plantes, en présence du réalisateur Jacques Mitch. Voilà, ma vie, des petites infos
mais
culturelles.
Bon, je t'épique si tu veux pour qu'on change de voix, mais je n'ai pas prévu grand-chose pour le mois de juin, sauf en attendant les bons temps à laisser promener à l'océan. Mais sinon, je vois que tu adores mon amour.
Ah ouais.
Ça sent bien.
Vas-y, chérie.
Ouais, c'est le dimanche 2 juin. Donc, du coup, Pierre, il doit être un peu au courant parce que ça se passe aussi à Saint-Jean-de-Marsac, tout le long de la Voie Verte. Donc, le dimanche 2 juin, c'est une opportunité pour y aller à Saubous, Saint-Jean-de-Marsac, et se faire des spectacles pour la famille, des clowns, des marchés gourmands, des producteurs locaux, des spectacles d'humour, des déambulations. Et finir à Saint-Jean-de-Marsac avec un spectacle final. Voilà, donc il y a quand même un tarif, c'est un spectacle payant, donc du coup c'est autour de 5-10 euros. Et ça c'est proposé par les Max et Festivador.
Et si vous êtes de passage à Bordeaux le 8 juin, il y aura une manifestation de soutien aux migrants qui arrivent par la mer. Ouais,
tu SOS Méditerranée avec le concert immanquable de Blik Bassi. Il y aura aussi des avocats qui vont intervenir, beaucoup de personnes. Et allez-y.
Super, donc tu vois, j'ai pensé à toi, à ton engagement, puis j'ai vu que c'était là. Voilà. Projection donc quand même d'un super film, 10 jours en mer, la véritable histoire de l'Aquarius. C'est quand même super intéressant, voilà, faite par Anne-Lise Borges, qui est grand reporter pour Euronews. Il y aura une table ronde sur la mobilisation citoyenne. Donc ça, c'est quand même intéressant. Hein. On va se regarder dans une glace, à se dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que je fais ? Il y aura une exposition photo. Oh, Camélia Jordana, je l'aime bien, moi aussi, en acoustique. Voilà. Plein de choses.
Ça lui sera pour SOS Méditerranée.
C'est ça.
Après, on a aussi, pendant les mois de juin, on a pas mal de, des activités autour de la découverte de soi et les designs humains. Donc, il y a des conférences sur la géographie et la géométrie sacrée. Et vous, on va tout publier sur le Facebook d'Atmosphère Atmosphère. Déjà, le 16 juin, il y a un atelier à la découverte du dessin humain sur un livre perché à Saubion. Et c'est animé normalement pour Johan, c'est notre animateur préféré qui vient de temps en temps faire partie de ces découvertes. Donc, du coup, la prochaine émission, on parlera des origines. Origine de l'humanité. Donc, on parlera quand même des géographies sacrées, géométrie sacrée. Il y aura un week-end de géographie sacrée au Pays Basque. Qui est, c'est passé ça déjà. C'est les mois
en fait, ouais. Pour mieux comprendre, on va avoir bientôt, et c'est une grande chance, c'est, via Johan, donc, notre animateur, voilà, la venue de Bluette Diot, qui est une ancienne chercheuse au CNRS et qui pose comme postulat la possibilité d'origine, en fait, une hybridation génétique de notre espèce avec une exocivilisation. Elle a c'est étayé par des preuves. Hein. Donc, elle souhaiterait parler de ça, donc on l'a invitée. Elle sera là le 24 juin avec d'autres personnes qui vont parler sur ce thème, voilà, les origines de l'humanité. Et elle viendra donc le 28 juin faire une conférence à l'espace Léna de Biarritz qui aura lieu à 19h. Voilà. Et ce sera suivi de la projection d'un extrait du film Le Tertre Sacré en présence de Jean-Raymond Binet qui est le réalisateur. Et donc cette fameuse conférence de la chercheuse Bluette Diot.
Ouais. Tout est sur notre site internet d'Atmosphère Atmosphère.
Voilà, voilà. On va vous partager tout.
Je ne sais pas si vous savez les invités des événements à partager sur votre agenda particulier que vous trouvez qui peuvent intéresser notre public. Pierre.
Alors, puisqu'on parlait au début de l'équité ou de l'égalité entre les hommes et les femmes, on n'en parle jamais, donc je voudrais en parler. Ouais. C'est le week-end du, je crois que c'est 14-15 juin. Ça existe ce week-end-là? 14-15 juin,
oui. Ouais. Je ne sais pas si c'est cette année, mais ça doit exister.
C'est à 15-16 plutôt. Enfin, ouais. Si c'est sur le dimanche, ça fait 15-16.
Non, c'est 14, 16. C'est sur le samedi et le dimanche. À Biarritz.
Et bah, vendredi, samedi-dimanche, c'est 15-16. Okay.
15-16. Ouais. Donc, ouais. Le week-end du 15-16, il y a la dernière manche du tournoi mondial de rugby à 7 féminin. Uh-huh. Et l'équipe de France féminine, donc rugby à 7, qui ne se joue donc pas à 15 ni à 13, mais à 7, et cinquième du classement mondial. Donc, il y a l'élite du rugby féminin mondial, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, toutes ces grandes équipes, l'Angleterre, la France, le Canada, qui est une excellente équipe, qui vont jouer donc pendant 2 jours la dernière manche du tournoi mondial du rugby à 7.
Youhou !
Et ça coûte vraiment très, très peu cher. Okay. Je crois que les billets sont à 5 ou 10 euros pour la journée.
C'est où ?
C'est à Aguilera, au stade Aguilera à Biarritz. Mmh.
Et si vous vous rappelez, on avait reçu donc Vanessa et Laure de l'association Culture Solidaire, dont le but était de fonder un lieu de production de maraîchage bio, donc c'est à Saubion, par la réinsertion. Donc ce lieu est enfin en place et elles aimeraient organiser, elles le font d'ailleurs, des après-midi découvertes. Donc le mercredi 19 juin, le 26 juin et le 3 juillet, de 16 à 18h, sur leur point de vente de Saubion, 9 rue des Artisans, vous pouvez découvrir les adhérents, rencontrer quels produits sont faits, quelles équipes, le fonctionnement. Voilà, mercredi 16 juin. Donc c'est la première rencontre de 16 à 18h.
Voilà. Tin, 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 tin. Bon, on aime bien finir normalement les émissions d'Atmosphère Atmosphère avec une petite citation. Donc, je ne sais pas si vous pensez en phrase sur la légalité, légitimité, l'égalité qui vous parle. Et moi, de mon côté, j'aimerais finir avec des paroles de Gandhi qui dit « Une loi doit avant tout être une loi juste ». La politique moderne fait de la loi un fétiche simplement parce que c'est la loi. Donc voilà, bon, parmi des avocats et des experts en finance, hein, vraiment, on a quand même arrivé à la conclusion de que ce n'est rien à voir la légalité avec la justice.
Moi, je citerai une phrase de Gandhi sur la violence qui dit que l'esprit dort dans la bête. Mmh. Je vous laisse réfléchir sur cette question.
Pierre.
Je réfère à une petite citation. Donc, article L211-23 du Code rural est passible d'une amende de 750 €, la divagation des chats. Vous êtes tous des dangereux contrevenants.
Ah, je crois qu'avec mon chat, là, je vais payer cher. Je vais prendre lourd.
Et la deuxième chose que je voulais citer, ce n'est pas vraiment une citation, mais je vais le faire très très court. C'est donc Atatürk, le père de la République turque, qui, quand il est arrivé au pouvoir, avait une lubie particulière qui était de réécrire la langue turque en utilisant l'alphabet latin. Parce qu'au départ, elle utilisait l'alphabet arabe. Ce qui faisait en gros que l'ensemble de la population était analphabète. Donc il est allé dans les prisons. Il a donné à tous les prisonniers un deal. Vous apprenez la nouvelle langue en un an et je vous libère. Parce qu'avec l'ancienne langue, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir lire et comprendre la loi.
Ah.
C'est magnifique. C'est ça. Ça laisse à réfléchir.
Mmh. Ouais. Non, je peux toujours dire que je suis étrangère. Hein. Dans la médiation, il doit y avoir beaucoup de sagesse.
Si tu es un partie médiateur interculturel, je comprendrai tout.
C'est ça.
Même le langage des signes.
C'est ça.
Moi, c'est une petite citation de Eckhart Tolle, voilà, qui est un enseignant spirituel, on peut dire comme ça. Le dysfonctionnement de l'ego, déjà reconnu il y a plus de 2500 ans par les anciens sages et maintenant amplifié par la science et la technologie, menace pour la première fois la survie de la planète tout entière. Une portion significative de la population terrestre devra reconnaître bientôt, si ce n'est déjà fait, que l'humanité se trouve devant un choix brutal, évoluer ou mourir. Ce qui émerge en ce moment, ce n'est pas un nouveau système de croyances, une nouvelle religion, mythologie ou idéologie. Le changement se situe au-delà du contenu du mental, au-delà de nos pensées. En fait, au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée. Lorsque vous êtes en contact avec cette dimension, en vous, et être en contact avec elle et votre état naturel, pas un accomplissement miraculeux. Tous vos actes et toutes vos relations reflètent le sentiment d'unité que vous ressentez profondément en vous. Ceci est l'amour. Ce sont les gens coupés de leur vérité qui ont besoin de lois, de commandements, de règles et de règlements. Ces structures empêchent en général les pires excès de l'ego, mais parfois pas. Aime et fais ta volonté, a dit saint Augustin. Les mots ne pourraient pas se rapprocher davantage de la vérité.
Mmh.
Ok. On est assez. D'accord.
Merci. Donc, on va laisser nos auditeurs digérer.
Ouais, merci d'être venu. C'était super.
Merci de nous avoir invités.
Merci pour votre fraîcheur, nous avoir éclairé de vos lumières tacites. Et puis, donc, la prochaine fois, on se retrouve sur les origines de l'humanité. Sont-elles extraterrestres?
Ouais. La sagesse de l'humanité. Les 28 juin. Le dernier lundi du mois.
Ouais. Voilà. Lundi 24.
C'est ça, 24. Ouais. Allez. Bonne soirée à tous. On continue sur Wave Radio. Merci.
À bientôt.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour
Atmosphère, atmosphère, l'émission qui vous balade entre ciel et terre. Tous les derniers lundis du mois de 19 à 21h sur Web Radio 102.3.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.